إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 28 شوال 1433 de l'Hégire, qui correspond avec le 15 septembre 2012 بإذن الله تعالى. Toujours avec Riyad Salihin, toujours avec le grand hadith, le sublime hadith de Jibril alayhi salam, où il avait posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques questions sur l'islam, sur la foi, sur la vertu, et même sur yani, quels sont les signes de la fin de l'heure, etc. Al-Muhim, aujourd'hui on est donc, on a parlé de Salah, Zakat, Hajj, Wudu, etc. Maintenant, la dernière chose dont on a parlé, c'est le Hajj. Maintenant, on parle de l'Iman. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, ça rentre dans l'Iman billah, ça rentre dans la foi. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre, en tu'mina bi anna Allah ta'ala qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ça rentre dans cela, que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala a cerné toute chose de sa science. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a cerné de sa science toute chose. Si jamais tu as des doutes, tu dis peut-être que il y a des choses qu'il connaît, d'autres qu'il ne connaît pas, des choses qu'il sait, d'autres qu'il ne sait pas, ça devient grave. Tu dois savoir qu'il a cerné de sa science toute chose. نعم دون لونيفير وانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. Il sait même يعني le regard furtif que des fois on jette comme ça, on jette des fois un regard نعم comme ça disons en cachette. Des fois la personne jette comme ça un coup d'œil vif rapide نعم, c'est comme si elle volait quelque chose avec son œil, avec ce regard là نعم. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît ce regard. Non. Il sait que tu as vu ce regard. Wa ma tukhfi as-sudur. Même ce que cachent les poitrines. Les poitrines, personne ne sait ce qu'il y a dans la poitrine de l'autre. On peut être assis en groupe. Non. Et personne ne sait ce que l'autre pense. Personne. Non. Alhamdoulillah. Sinon, yani, ce serait vraiment difficile de vivre en société. Hein? Tu t'assois avec quelqu'un, tu sais ce qu'il pense. Non. Mais c'est, on peut dire une ni'ma que personne ne peut savoir ce que tu penses. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait non, tout ce qui passe dans ton, yani, dans ton esprit et tout ce qui passe, yani, les idées qui passent à travers ton cœur. Wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard min qalilin wa kathir wa jalilin wa daqiq. Et ici, il sait tout ce qu'il y a hein, et qui a lieu dans les cieux et dans la terre. Quand on dit dans la terre, y compris la mer. Hein, tout ce qu'il y a comme détail sur terre, dans la mer, dans les cieux, entre les cieux et la terre, il le sait. Regardez par exemple nous. Ça fait maintenant des années par exemple qu'ils font des efforts par exemple pour essayer de monter par exemple sur Mars. Donc, sur Mars, on ne connaît rien. Sauf que c'est comme ça une boule qui, je ne sais pas combien elle pèsera, mais aucun détail, détail, des détails. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tous les détails qu'il y a dans toutes les planètes, à l'intérieur des terres de ces planètes, à l'intérieur des rochers, à l'intérieur Naam. Subhanallah. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fi sama. Ali Imran 5. Allah subhanahu wa ta'ala, rien vraiment ne se cache d'Allah, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Rien ne se cache d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Rien ne peut se cacher. Wa kadhalika, ça rentre aussi dans l'iman. أن تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير. نعم. Et avant cela, toujours dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est en train de parler de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, la science, c'est un attribut. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un attribut de l'essence. Pas un attribut des actes, un attribut de l'essence. Car c'est un attribut qui ne se départ jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux attributs de l'acte, qui dépendent de la volonté. Non. Donc la science d'Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend pas de sa volonté, mais de son essence. Jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est passé un instant sans qu'il ne soit sans la science. C'est impossible. La science, sa science est toujours avec lui. Naam, est toujours avec lui. C'est un attribut de l'essence. Et fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'alim. Naam, le clairvoyant, l'alim. Celui qui détient la science, le détenteur de la science. Et le moyen, quand on parle aussi de la science, on parle aussi de sa science. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui est maintenant et ce qui a eu lieu autrefois, mais il sait aussi ce qui va avoir lieu, ce qui va avoir lieu. Mais mieux encore, ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il sait? Il sait ce qui ne va pas avoir lieu, si jamais il a eu lieu, comment il aurait été. C'est ça, yani, vraiment la chose qui est yani, extraordinaire. Savoir ce qui n'a pas lieu. Si jamais il a existé, comment qu'il aurait existé? Comment qu'il aurait existé? Et Allah subhanahu wa ta'ala, yani pour que vous compreniez ce que je veux dire, a parlé de ça dans certains versets. Regardez par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, on parle donc de ce qui n'a pas lieu, s'il a été, comment il aurait été. Regardez par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je cherche d'abord le verset en arabe dans ma tête. Bon, comment qu'il a dit? Naam, lorsqu'il a dit Inna shar dawabi indallah, Inna shar dawabi indallah, alladhina kafaru. Ou bien il a dit Summul bukmu alladhina la yaqilun. Il a dit la pire, ou la les pires des bêtes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah Azzawajal sont les sourds-muets. Ici, les pires des bêtes, c'est-à-dire des créatures. Sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah Ta'ala avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils entendent? C'est-à-dire qu'ils seraient rentrés dans l'islam. Non, il aurait fait qu'ils entendent la vérité. Quelqu'un qui entend la vérité, Alhamdoulilah, il adhère. Donc, ce sont des sourds-muets, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas raisonner. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et si Allah Ta'ala avait reconnu en eux quelques biens, s'il avait vu qu'il avait quelques biens, car Allah subhanahu wa ta'ala regarde les cœurs, s'il voit qu'il a, cette personne a du bien dans le cœur, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a fait entendre. Il fait cette personne entendre, ça veut dire, il l'a fait, yani, rentrer en islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit après ça? Il a dit, وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ la tawalla wa hum mu'ridun. Mais même si Allah subhanahu wa ta'ala, s'il les faisait entendre, s'il les fait entendre, il les ferait rentrer en islam, qu'est-ce qu'il ferait? Il tournerait sûrement le dos en s'éloignant. Donc regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ici. C'est ce que j'ai voulu vous dire, vous expliquer. La chose qui n'a pas lieu, si elle avait lieu, comment elle aurait été? Ici, qu'est-ce qui n'a pas eu lieu? Allah Ta'ala n'a pas fait entendre certains gens, ne les a pas guidés. Pourquoi? Car il a dit, je connais ces gens-là. Même si je les guide, je les fais entendre, ils vont quoi? Ils vont s'en éloigner, ils vont se détourner. Donc, regardez la chose qui n'a pas eu lieu ici, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas fait entendre. Pourquoi? Il sait que si jamais il leur a fait entendre, il les a fait entendre, ils n'auraient pas entendu. Et ils n'auraient pas accepté et ils seraient détournés. Subhanallah, l'adhim. La même chose pour un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَوْ تَارَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَارَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, l'âme, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils vont se placer devant le feu? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais dire en français. Ils diront, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hélas, si nous pouvions revenir dans le bas monde, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. قالوا يا ليتنا نرد آه si Allah subhanahu wa ta'ala pouvait nous rendre dans ce si Allah ta'ala nous rendait dans ce bas monde يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا et on ne va pas traiter de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants ونكون من المؤمنين ça c'est يوم القيامة quand Allah subhanahu wa ta'ala va les placer devant le feu et ils vont tout regretter, ils vont dire, ah, si jamais Allah Ta'ala va nous donner une autre chance et va nous faire revenir sur terre. Et donc, nous n'allons pas mentir, nous allons croire et nous serons des nombres des croyants. Donc, c'est une chose qui n'a pas eu lieu et qui n'aura pas lieu, bien sûr. Mais Allah Ta'ala sait que si ça allait arriver, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez ce qui va se passer. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, si Allah subhanahu wa ta'ala les aurait rendus sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Ils reviendraient sûrement à ce qui leur est interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Regardez, ils n'ont pas été rendus, mais Allah Ta'ala sait que si jamais il va les rendre sur terre, ce seront des menteurs. Ils ne vont pas appliquer. Ils vont continuer dans l'égarement, continuer dans les grands péchés, continuer dans le shirk. Subhanallah, l'adhim. Regardez l'être humain comment qu'il est. L'être humain, comment il est? Il voit le feu, il voit Jahannam. Et il demande à Allah Ta'ala de le rendre sur terre. Yani pour se rattraper, pour ceci, pour cela. Et si jamais Allah Ta'ala va le rendre sur terre, Allah Ta'ala a attesté que quoi? Que c'est un menteur et qu'il ne va pas appliquer et qu'il va continuer dans ses passions. Allahu Akbar. Donc vous avez vu ici comment Allah subhanahu wa ta'ala sa science. Même la chose qui n'arrive pas, si elle va arriver, il sait comment qu'elle serait donc. Subhanallah l'azim. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit: وَكَذَلِكَ تُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et ça rentre dans la foi aussi, le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, que Allah ta'ala est omnipotent, capable de tout. Rien ne peut entraver sa volonté. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. S'il veut une chose seulement, il lui dit soit elle est. Mahma kana al-amr. N'importe, yani que soit la chose. Naam. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit difficile à faire, qu'elle soit. Naam. Rien ne peut entraver la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il veut faire une chose, il ne demande l'avis de personne, ni la permission de personne, ni la peur de quelqu'un. Ni la peur de quelqu'un qui risque de. Yani mettre les bâtons dans, comme on dit, dans les roues. C'est impossible. C'est impossible. Yani, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et regarde, médite sur la résurrection des gens, Yom al-Qiyamah, et la création des gens. Il a dit, les gens, ce sont des millions. On va dire des milliards, c'est mieux. Des milliards. La yuhsin, personne ne peut les compter, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf Allah ta'ala peut compter yani combien qu'il y a exactement de gens. Waqad qala ta'ala, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, وما خلقكم ولا بحثكم إلا كنفس واحد. دي مليار الله سبحانه وتعالى دي ما يكون سوى دي مليار إلا دي votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à moi que s'il s'agissait d'une seule âme. Vous avez compris? Yani, y a des gens qui vont, yani, qui s'étonnent. Ils disent, comment Allah subhanahu wa ta'ala, on est des milliards pour nous faire ressusciter tous à la fois, à la même minute, à la même seconde. On va dire, on va lui lire le verset, Allah ta'ala dit, votre création et votre résurrection, c'est aussi facile à moi que, comme s'il s'agissait d'une seule âme. Que vous soyez des milliards, ou bien une seule âme, c'est la même chose pour moi. C'est pour cela qu'il y a toujours, jusqu'à présent, il y a des gens qui s'étonnent. Ils disent comment, yani, l'ange de la mort par exemple, comment qu'il peut, à la même minute, mais mieux encore, à la même seconde, il peut ôter 10 000 âmes, 20 000, 20 en Algérie, 20 en Tunisie, 60 en Égypte, 80 en France, c'est pas 1 000 en Inde, je ne sais pas, en Yougoslavie, en ceci, combien de gens il y a qui meurent à la même seconde. Ils disent comment Malik al-Maut, comment il peut faire, subhanallah, l'ange de la mort, pour être yani, à la même seconde chez toutes ces personnes. Naam. Et bien sûr, ces personnes qui pensent comme ça, yani, ne connaissent pas la valeur des anges, ne connaissent pas la taille aussi des anges. Ils croient que, ils font une analogie fausse, yes. Quand ils pensent à un ange, ils voient que c'est une personne comme nous, peut-être un peu plus grande. Disons qu'il fait un 3 mètres maximum. 3 mètres, yani, ou là, 5 mètres, un géant, avec de grandes jambes, de grandes mains, comme ça. Il dit, mais comment il peut faire, yani, à la même seconde, il peut être partout. Mais il ne sait pas que, par exemple, je donne un exemple, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit une fois dans un hadith authentique, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de rapporter yani, les propos d'un ange, de parler sur un ange, de le décrire. Il a dit, ses deux pieds de cet ange, naam, il a dit, il parlait d'un ange qui est un coq. Il a dit, ce coq-là, il a les deux pieds qui rentrent dans la septième terre. Ils ne sont pas sur notre terre, comme nous, nos pieds sont sur la terre. Imaginez, ils s'enfoncent et ils rentrent sous la deuxième terre, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième terre. Tellement il est grand, il n'y a pas de place. Et sa tête, où est-ce qu'elle est? Il a dit, alayhi sallam, elle se trouve sous l'arche. Sous l'arche, comment qu'elle est? Il a dit, elle est, comment qu'on dit, yani baissée sous l'arche. Ça veut dire, si c'était possible, si c'était pas l'arche, yani on peut pas être plus haut et plus grand que l'arche, sauf Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que l'arche et plus haut que lui, il a dit alors sa tête dépasserait. Vous avez compris comment sa tête est sous l'arche? C'est comme une personne qui fait par exemple 2 mètres. Quand elle monte dans une voiture, qu'est-ce qu'elle fait de sa tête? Sa tête va toucher le plafond. Le plafond ou de la voiture. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va baisser sa tête. Elle va baisser sa tête car elle sera gênée. La même chose, cet ange, yani un des anges qui tiennent quoi? Qui soulève le trône. Un des anges qui soulève le trône, il a les pieds enfoncés sous la septième terre et sa tête, yani, pliée sous donc le trône. Donc maintenant, si tu imagines que l'ange de la mort a peut-être cette taille ou plus, tout le monde, imagine le monde, quand je dis le monde, le globe terrestre, imagine tout le globe terrestre, la terre, comme un pois chiche qui est devant toi, ou là, entre tes doigts. Tu vois un pois chiche entre tes doigts, un pois chiche c'est la terre, et les êtres humains qui sont sur la terre, comment ils vont te paraître? Comme ça, des points que pour les voir, il te faut un microscope, tellement ils sont petits. Donc, pour toi maintenant, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne un ordre de tuer tout le monde à la même seconde, il suffit avec ta main que tu écrases le pois chiche. Tu vas l'écraser, tout le monde va mourir à la même seconde. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. En même seconde, tu écrases le pois chiche, alors tout le monde va mourir. Donc, qu'en est-il pour l'ange de la mort? Yani pour qu'il ôte l'âme à 100 ou 200 ou 10 000 personnes par jour, tout ça c'est très facile. Très très facile pour lui. Et les savants donnent aussi un autre exemple. Ils disent, il y a certaines villes, il y a certaines villes, de grandes villes, comme Chicago, comme New York, qui ont par exemple, par mesure de sécurité, etc., ils ont un seul bouton. Un seul bouton sur lequel, si tu appuies, tu vas éteindre toute la lumière de la ville. Toutes les lampes de la ville de New York, si tu appuies sur un seul bouton, tout va s'éteindre. Donc regardez, tu appuies sur un seul bouton, des millions de lampes vont s'éteindre. Malik al-Mawt, aussi l'ange de la mort, aussi, il peut appuyer sur un bouton et des milliers qui vont mourir. Des milliers. C'est facile pour lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, votre création et votre résurrection, pour moi, c'est comme une seule âme. C'est comme s'il y avait une seule âme. Est-ce que c'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala d'ôter l'âme à une seule personne? C'est pas difficile. Est-ce que c'est difficile Allah subhanahu wa ta'ala de faire ressusciter une personne, de la faire sortir de la tombe? C'est très facile. Donc que ça soit une, si c'est facile pour une, c'est facile pour 200, pour 600 milliards, si c'est facile pour une. Non. Ou bien c'est difficile pour une et pour tout le monde. Ou bien c'est facile pour une, alors c'est facile pour tout le monde. Ensuite, il a dit, il a dit, خلقهم الله تعالى وبعثهم عفوا خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. Il a dit, toutes les créatures, leur résurrection et leur création, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il s'agissait d'une seule personne. Ensuite, il a cité un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة النزيعات 13, 14. Qu'est-ce qu'il a dit avant cela? فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَهُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y aura qu'une sommation. Une seule sommation. Un seul ordre. Et voilà qu'ils seront sur la terre tous ressuscités. Tous. Non. Il n'y aura qu'une seule sommation. Allah subhanahu wa ta'ala va donner un seul ordre. Non. Et voilà quoi? Qu'ils sont là, tous, naam, ressuscités, ressuscités. Le cheikh dit, rahimahullah, وَتَرَى شَيْئًا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي حَيَاتِكَ الْيَوْمِيَّةِ. Le cheikh dit, même dans ta vie quotidienne, si tu médites dans ta vie quotidienne, tu vois beaucoup de signes. Tu vois beaucoup de signes. Il a dit, par exemple, فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا نَامَ فَقَدْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Il a dit, par exemple, la personne, quand elle va s'endormir, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle va s'endormir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ôter son âme. Comme il a dit dans le Coran, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Et c'est lui qui prend vos âmes, c'est-à-dire la nuit. Et c'est lui qui prend vos âmes la nuit. L'An'am 60. Il a dit, et c'est lui qui prend vos âmes la nuit. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour et il vous informera de ce que vous faisiez. Est-ce que vous m'entendez, musulmans? Alhamdoulilah. Donc, il a dit, regardez, méditez avec moi ce verset. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Pourquoi nous, avant de dormir, on fait des doigts? Et on dit, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allah, et Allah, en ton nom, je vais mourir et je vais ressusciter. Et c'est pour ça que, parce que quand tu vas dormir, tu vas mourir. Le sommeil, c'est la petite mort. C'est pour ça que quand on va dormir, on ne sait pas si on va se réveiller. Car nos âmes, il a dit, c'est lui qui prend vos âmes. Il va te prendre ton âme quand tu dors. Ensuite, s'il veut que tu meurs pour de bon, il ne va pas te rendre ton âme. Mais si Allah Ta'ala a écrit et décidé que tu vives encore, il te rend ton âme vers 5 h du matin ou 3 h du matin, ou bien d'après le moment où il veut que tu te réveilles. Il a dit, puis il vous ressuscite le jour. Vous avez bien compris, il vous ressuscite. C'est une autre preuve que tu étais mort. Naam, le matin quand tu te réveilles, tu t'es ressuscité. Il t'a ressuscité, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça quand tu te lèves, qu'est-ce que tu dis dans les doigts? Alhamdulillah illadhi ahyani, ou ahyana, ba'd ma amatana, ou ba'd ma amatani. Alhamdulillah illadhi ahyani ba'd ma amatani, wa ilayhi an-nushur. Et c'est vers lui que je vais revenir. C'est pour ça il a dit ensuite dans ce verset, ensuite c'est vers lui que sera votre retour. Pourquoi tu dois dire, il a dit cette phrase, et pourquoi toi aussi quand tu te lèves tu dis cette phrase dans le doigt, wa ilayhi an-nushur. Justement, c'est comme si tu as reconnu, ya Allah, hier j'étais mort, aujourd'hui tu m'as ressuscité, donc cette mort et ce ressuscitement doivent me rappeler la grande mort et quand je vais me ressusciter la dernière fois. Donc Allah Ta'ala a fait dans le sommeil, dans ton sommeil et ton réveil, il a fait pour toi, quoi? Il a dit un signe, un grand signe pour ceux qui méditent. Car c'est la petite mort et la petite résurrection. Et pour que tu te rappelles la grande mort et la grande résurrection. Naam. Donc en dormant, tu vas mourir la petite mort. Et en te réveillant, ce sera la petite résurrection. Et un de ces jours, tu vas mourir la grande mort. Et ensuite, tu vas yani, subir la grande résurrection. Résurrection. المهم نشير دي لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح والجسد مفارقة تامة نشير دي مي cette mort là c'est-à-dire quand on va s'endormir il a dit cette mort là ce n'est pas une mort parfaite ce n'est pas la grande mort il a dit la preuve c'est que ton âme ne va pas quitter ton corps pour de bon ne va pas quitter ton corps pour de bon لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن. Il a dit, mais c'est une séparation qui a toujours un lien avec le corps. Un lien avec le corps. Naam. Thumma yab'athullahu an-na'ima min nawmihi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait ressusciter le dormeur, celui qui dormait. Allah ta'ala le fait ressusciter. Fayahus bi'annahu qad hayya hayatan jadida. Alors il sent que quoi? Que, yani, il sait, yani, il va vivre maintenant une nouvelle vie. Une nouvelle vie. En fait, si on médite bien, chaque jour, c'est une nouvelle vie. Car chaque nuit, c'est une nouvelle mort. Non, chaque nuit, tu meurs. Et chaque jour, tu ressuscites, yani, c'est une nouvelle vie. Bi'idhnaïdal. Non. Le sommeil en lui-même, c'est une quoi? C'est un signe pour que tu médites. Pour que tu dises, non. Subhanallah al-Azim. Donc comme ça, je vais mourir un jour. Naam. Donc comme ça va se passer dans la tombe. Etc. C'est comme ça que doit c'est à ces choses-là que la personne doit penser avant de dormir. À ces choses-là. Naam. Doit faire la liaison, la relation entre la petite mort, le sommeil, et la grande mort. Et entre la petite résurrection quand on se réveille et la grande résurrection yawm al-qiyamah. Le cheikh dit. وكان أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية. Il a dit, et cet impact-là, yani, le fait de sentir le matin quand tu te réveilles, le fait de sentir que tu viens de ressusciter et que tu viens tu étais morte. Et Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a fait revivre de nouveau. Il a dit, ces choses-là, ça se sentait autrefois. Il a dit, quand il n'y avait pas l'électricité. Il n'y avait pas d'électricité. Il a dit, لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون. Il a dit autrefois, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, lorsque yani, les gens vivaient dans les campagnes, etc., dès que c'était le Maghreb, خلاص, le Maghreb, le soleil se couche, c'est tout juste, maximum, tu allumes la bougie, maximum. Il a dit, là-bas, on sentait vraiment, yani, qu'il faisait noir, on sentait vraiment l'obscurité. Il a dit, on sentait vraiment, yani, tu sens que tu es seul maintenant, yani, tu es seul. Il a dit, وَفَإِذَا بَلَجَ الصُّبْحُ احس بالاصفار والنور والانشراح. Il a dit, alors le matin, yani quand on voit le soleil se lever, les gens, ils voyaient la lumière. Il a dit, ils sentaient, masha'Allah, de la joie. Ils sentaient, yani, masha'Allah, leur poitrine, yani, qui s'ouvrait. Il a dit, naam. Il a dit, ils sentaient quoi? Ils sentaient le plaisir que, yani, la nuit soit partie et que le jour soit venu. Amma al-yawm, quant à de nos jours, il a dit, de nos jours, tu ne peux plus re ressentir cette chose-là, ce plaisir, dans ton cœur. Il a dit pourquoi? Il a dit, les nuits sont devenues comme le jour. Il n'y a pas de différence. Tu sors, par exemple, je ne sais pas où, à Paris, ou là, tu sors la nuit, c'est comme s'il faisait jour. Aucune différence, aucune différence. Mais autrefois, quand il n'y avait pas de lumière, tu sentais vraiment, yani, quand le soleil se couchait, tu sentais, yani, des choses dans ton cœur. Tout est noir, tout, yani. Maintenant, non. Maintenant, yani, la nuit, peut-être, il fait plus jour que le jour. Il fait plus jour que le jour. Alors, tu sens pas quoi? La personne ne sent pas qu'elle est morte et que Allah Ta'ala l'a ressuscité. Pour elle, yani, c'est toujours le jour. C'est toujours le jour. Naam. Et ça rentre dans la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rentre dans la croyance aussi, en tu'min bi anna Allah sami'un basir. Que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir est audient et clairvoyant. Il entend tout, il voit tout. Yasma'u kulla ma naqul wa in kana khafiyan. Allah subhanahu wa ta'ala entend tout ce qu'on dit, même si c'est à très, yani à voix très basse, à voix très basse. Tu parles avec quelqu'un, yani entre tes lèvres seulement. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu cela. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Zukhruf 80, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala. Wa rusuluna ladayhim yaktubun. Wa rusuluna ladayhim yaktubun. Il a dit, ou bien croit-il? Croient-ils? Ou bien escomptent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Mais, oh que si, nos anges prennent note auprès d'eux. Non. Ils croient qu'on n'entend pas ce qu'ils disent, yani à voix basse. Hein? À voix basse, c'est le secret. Ou bien, yani, en délibération. Yani, vraiment, 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 c'est plus que secret, plus que secret. Vraiment, vraiment à voix basse. Non. Allah Ta'ala dit, il croit qu'on n'entend pas, mais si, nos anges prennent note. Il dit, non seulement on vous a entendu, mais mieux encore, mes anges ont écrit ce que vous avez dit. Mes anges ont écrit ce que vous avez dit à voix basse. Même si tu vas coller ton oreille, tu vas coller ta bouche contre l'oreille de la personne à laquelle tu veux dire quelque chose dans l'oreille. C'est vite écrit. Dès que tu termines le dernier mot, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit dans Surat Taha, verset 7, il a dit, وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Allah ta'ala connaît certes les secrets et même ce qu'il y a de plus caché. Allah ta'ala connaît les secrets et même ce qu'il y a de plus caché. Donc les secrets, c'est ce que tu dis à une personne à voix basse, très très basse, entre toi et elle, tu dis attention, il ne faut pas dire. Ce que tu lui as chuchoté, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Et même ce qu'il y a de plus caché, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le cœur, que même une autre personne ne peut pas connaître. On a tous des choses, yani, qu'on se dit dans le cœur. Allah ta'ala connaît tout ce que tu dis dans le cœur. On a tous, yani, des fois, quand tu marches dans la rue, tu dis des choses, tu dis. Tu peux pas marcher par exemple sans parler, sans te parler. Je vais aller à cet endroit, je vais acheter ceci, je vais dire à cette personne pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Je vais à la maîtresse lui dire pourquoi tu as dit à mon fils ceci, pourquoi cela, pourquoi tu as donné zéro, pourquoi ceci. Tout ce que tu dis dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît, mais ne l'écrit pas. Ne l'écrit pas, ni pour toi ni contre toi, rien. Il l'écrit pas. Et alhamdoulilah, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith se trouve dans le Bukhari et Muslim. Alors, a dit que, Inna Allah tajawaza an ummati ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الحمد لله سي اون غروند نعمة. الله سبحانه وتعالى لو حديث هذيك الله سبحانه وتعالى يعني ne châtie pas, ne châtie pas pour يعني ma communauté pour tout ce qu'elle dit dans son cœur, pour tout ce qu'elle dit dans son cœur à deux conditions. نعم à condition qu'elle ne fasse pas l'une des deux choses. ما لم تعمل نعم ما لم تعمل il a dit إن الله تجاوز ما لم تعمل. Il faut deux conditions, que tu dises pas, tu dises pas à voix haute ce qu'il y a dans ton cœur, ou bien que tu ne fasses pas, que tu ne fasses pas ce que tu as pensé dans ton cœur. Si tu penses à une chose mauvaise, ensuite tu l'as dit à voix haute, khlas, c'est écrit contre toi, ou bien tu l'as fait. Des fois tu penses à une chose qui se fait, une chose mauvaise. Non. Tu as pensé à cette chose mauvaise, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'écrire contre toi, à condition de ne pas la faire, ni de la dire, ni de la dire. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Cheikh Ibn Uthaymin dit, quand il a dit que Allah Azza wa Jalla connaissait les secrets, et même ce qu'il y a de plus caché, il a dit ce qu'il y a de plus caché, c'est ce que la personne se dit entre elle-même et son âme. Comme lorsque Allah Subhanahu wa Ta'ala dit dans le verset de Surat Qaf, il a dit, « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Nous avons effectivement créé l'homme, l'être humain, et nous savons ce que son âme lui suggère. Naam. Allah Ta'ala est au courant et sait parfaitement exactement tout ce que ton âme te dit, te suggère. Ton âme te dit, faut faire ceci, faut pas faire cela. Tout ce que ton âme te suggère et te dit, l'âme te chuchote dans ton cœur, te wuswus, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, l'âme. Allah azza wa jal, donc Allah azza wa jal, on est dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donc sait, voyant-on. Allah subhanahu wa ta'ala est clairvoyant, il voit tout. Il a dit, yubsiru dabib al-naml, al-aswad, il a dit une fourmi noire. Il y a des fourmis noires, il y a des fourmis jaunes, il y a des fourmis rouges. La fourmi noire dans la totale obscurité. Imaginez, une fourmi noire dans la totale obscurité. Quand elle marche sur un caillou, est-ce que c'est possible à quelqu'un qu'il entende qu'elle est en train de marcher, il entende ses pas? C'est pas possible. Imagine que tu sois assis dans une forêt, la nuit il fait, il y a une c'est vraiment obscur. À 2h du matin, il y a un petit caillou devant toi, un petit rocher. Il y a une fourmi noire qui marche dessus. Est-ce que tu peux l'entendre? Il y a une fourmi qui marche. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Allah ta'ala entend la fourmi qui est en train de marcher. Comme nous, si on peut dire, elle fait des pas. Tac, 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 tac. Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Nous, on ne l'entend pas. Naam. Le shaykh dit, « Fa'ida amanta » bi'ilmillah, si maintenant vraiment tu vas croire en la science d'Allah, que Allah Ta'ala connaît tout, wa qudratihi, en sa puissance, sa grande puissance, wa sam'ihi, en son oui, que Allah Ta'ala est l'audient, qu'il entend tout, tout, vraiment tout, wa basarihi, que Allah Subhanahu wa Ta'ala voit tout, alors, awjaba dhalika an tura'i rabbak azza wa jal. Alors, si vraiment tu as cru en cela, alors il devrait donner quoi? Ça devrait donner quoi? Ça devrait donner que tu dois te surveiller d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu devrais donc yani, te surveiller. L'auto-surveillance, te surveiller. En la tusmi'ahu illa ma yurdih. Puisque maintenant tu es sûr que Allah ta'ala entend tout. Alors tu devrais faire des efforts pour que tu ne dises que ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala quand tu parles, car il t'entend. Si tu savais pas que Allah Ta'ala entendait, tu peux dire n'importe quoi. Mais maintenant, tu es sûr qu'il t'entend. Alors, comment oses-tu dire des choses qui mettent Allah Subhanahu wa Ta'ala en colère, qu'il voudrait pas entendre, comme les gros mots, comme parler avec une femme de choses qui conviennent pas, comme insulter, je ne sais pas qui les Sahaba. Alors qu'en est-il de ceux qui insultent le prophète, ceux qui insultent Allah, ceux-ci, ceux-là? Naam. Et pourtant, Zama, ils disent on est musulmans. Zama, ils disent on est musulmans. Comme tout à l'heure, on parlait de quelque chose. Pour ce qui se passe maintenant, les gens qui insultent le prophète, Ali Salam, qui font des films et ceci, cela. Tu trouves qu'il y a des gens qui. Yani, la foi, etc., la jalousie. Yani, ils vont se grouper, ils vont aller dans les ambassades, ils vont brûler, ils vont ceci, ils vont cela. Naam. Ils vont ceci, ils vont brûler, faire des choses. Alors que parmi ces gens-là, il y a des gens qui, quotidiennement, ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quand tu l'énerves là pour rien, il te dit Naal, ceci, ceci. Commence à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Zamada, il va défendre le prophète alayhi salam, alors que, quand il te voit avec ta barbe, il rit de toi. Il dit, c'est quoi cette barbe? C'est la barbe d'une chèvre. C'est quoi cet habit-là? C'est quoi cet habit-là, le djilbab? C'est une tente. Ça, c'est une tente. C'est une Mazda. C'est une 404 bâchée. Comme quelqu'un disait ici à Blida autrefois. C'est un imam. Hein? Zama imam. Une chauve-souris. Un imam. Qu'est-ce qu'il disait? Il parlait des femmes qui portaient le niqab. Il disait Zoro. Oh, c'est plein de Zoro ici à Blida. À Blida, c'est plein de Zoro. Vous connaissez Zoro avec le truc là dans ses yeux. Zama. Donc, Hada, Zama imam. Il donne des cours. Il apprend l'islam aux gens. El-Mohim, je disais, donc maintenant que tu sais qu'Allah subhanahu wa azzawajal, l'âme, entend tout. Donc tu devrais bien te surveiller de ne dire que ce qui ravit Allah subhanahu wa azzawajal. Et maintenant, l'âme, que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Donc tu devrais aussi faire des efforts pour faire en sorte que, yani, tu ne fasses que ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fasses que ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu reconnais qu'il voit tout. Toi-même, tu as dit, je reconnais. J'atteste que Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Naam. Fa'anta takhsha rabbak. Donc toi, tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takhaf min rabbika an yaraka haythu lahak. Tu as peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala te trouve dans un endroit où il t'a interdit d'y être. Ou alors, qu'il ne te trouve pas, Naam, qu'il ne te trouve pas dans un endroit où il t'avait ordonné d'y être. Je donne un exemple. Puisque tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Donc, fais en sorte que tu ne sois pas, par exemple, dans la discothèque. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que tu sois dans une discothèque. Et tu sais qu'il maintenant est en train de te voir. Ou alors ne sois pas avec telle femme. Qui n'est pas ni ta famille, ni ta femme, ni née. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que tu sois avec elle. Et le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'il ne te trouve pas là où il aime, par exemple. Par exemple, pour un homme, Allah ta'ala n'aime pas qu'il ne te trouve pas à la mosquée. C'est l'heure de la prière et Allah ta'ala ne te voit pas dans la rangée, dans les rangs avec les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te trouve dans les endroits où il n'aime pas. Et qui ne te trouve pas dans les endroits où il aime. Où il aime. Non. Il a dit, et la même chose, il faudrait craindre Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu ne dises que Yannis qui le ravit. On va s'arrêter, inshallah ta'ala, ici. On va s'arrêter, inshallah ta'ala, ici. Il reste 5 minutes, on va les continuer, comme ça on termine. ce chapitre inshallah ta'ala كذلك اذا امنت بتمام قدره الله فانك تساله كل ما تريد. La même chose maintenant que tu as cru que Allah subhanahu wa ta'ala était le puissant, était le tout puissant et que Allah ta'ala était capable de tout. Donc maintenant qu'est-ce que ça va donner comme fruit? Ça va donner comme fruit que maintenant quand tu lui demandes des choses, demande de lui tout ce que tu veux, même ce qui te paraît impossible. Le cheikh dit, il ne dit pas ça c'est impossible. Il ne dit pas ça c'est loin. C'est loin ou là c'est difficile. Tout est possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. À condition, il a dit que tu ne fasses pas des doigts qui ne sont pas légiférés. Par exemple, la personne n'a pas le droit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner des ailes pour qu'elle vole. Ya Allah, donnez-moi des ailes, je veux voler. Ya Allah, Donnez-moi, faites de sorte que je devienne un messager. Tout ça s'appelle i'tida fi dua. Ça s'appelle la transgression. La transgression, une injustice dans les doigts, c'est haram. Nam, c'est haram. Ya'tadun fi dua, comme a dit le prophète sallam. Il a dit, il va y avoir des gens dans ma communauté qui vont quoi? Ils vont yani, être injustes dans les doigts. Dans les doigts. Ou alors quelqu'un va demander, par exemple, à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous demande de me donner des enfants. Je veux un bébé sans me marier. Nam. Je reste dans le célibat. Et ya Allah Ta'ala, donnez-moi un bébé. Je sais que vous êtes capable de tout, ya Rabbi Subhanahu. Vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de me donner un bébé, même si je ne me marie pas. Si quelqu'un va faire une doua pareille, il a fait un péché. Il a fait un péché. Car il a fait ce qu'on appelle l'i'tida fi doua. L'i'tida. Naam. Il a dit donc, ne dis jamais que c'est impossible, c'est loin, etc. Tout est possible. Fais des doua à condition que les doua soient légiférées. Il a dit, regarde Moussa alayhi salam, quand il est arrivé à la mer rouge, Hariban min Fir'aun wa qawmihi, fuyant, fuyant le pharaon et ses junoud, ses soldats. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est arrivé yani, à une impasse. Il y a la mer en face de lui. Il n'a plus où fuir. Où fuir. Allah Ta'ala lui a ordonné de frapper la mer. Tu frappes l'océan avec quoi? Avec ton bâton. Un petit bâton qu'il a enlevé d'un olivier. Maintenant, ce petit bâton, il va frapper avec quoi? Il va frapper l'océan. Il l'a frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est yani, divisé yani, en 12, 12 chemins, 12 sentiers, 12. Pour chaque groupe, ils étaient 12 groupes. Pour chaque groupe. Subhanallah. Il a dit, fi lahda, en un instant. Un seul instant, tout l'océan, ou bien cet endroit-là spécialement, subhanallah l'adhim, est devenu quoi? Est devenu de la terre. Sec, comme la terre. Et plat. Plat. Nam. Et ils l'ont traversé en marchant. Nam. De l'eau à droite, de l'eau à gauche, et moi je suis au milieu. Et l'eau qui monte à ma droite comme une montagne. Et à ma gauche comme une montagne, mais Allah Ta'ala lui donne l'ordre de ne pas se renverser, de rester comme ça, comme les jets. Vous voyez le jet d'eau? Imaginez un jet d'eau qui ne redescend pas, car le jet, il monte et il redescend. Celui-là, il ne redescend pas, il monte seulement, et imaginez comme une montagne, car c'est l'océan, ce n'est pas un jet. C'est l'océan qui monte comme des montagnes à ta droite, des montagnes à ta gauche qui montent, qui ne redescendent pas. Si jamais yani, ça redescend, خلاص, on ne va plus trouver la personne. El-Muhim, il a dit, comme si c'était un désert. Il marche entre, yani, entre l'océan, comme s'il marchait dans le désert. Il a dit, qui peut avoir cette puissance? Il a dit, on raconte que Sa'd ibn Abi Waqqas, le sahabi radiallahu ta'ala anhu, connu, quand il est allé pour conquérir la Perse, quand il est allé conquérir la Perse, il est arrivé à Doujla. Doujla, c'est un fleuve très connu en Irak. Il a dit, ses ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les ponts. Et ils ont quoi? Il a dit, ils leur ont brûlé les bateaux pour que les musulmans ne puissent pas les atteindre. Et maintenant, il y a un fleuve. Il y a un grand fleuve entre nous. Il a dit, alors, Sa'd ibn Abi Waqqas, yani, c'est convenu avec les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Et ils ont décidé de quoi? Ils ont décidé de traverser le fleuve, Naam. Sans quoi? Sans bateau, ni barque, ni bouée, ni rien, ni bouée de sauvetage, ni rien. Ils ont dit, on va le traverser comme ça. Et ils l'ont traversé, yemshouna ala sathin ma. Ils l'ont traversé en marchant sur l'eau, en marchant sur le fleuve, comme quoi? Comme un bateau. Yani vogue sur l'eau. Il a dit bikhailihim avec leurs chevaux, wa ibilihim et leurs chameaux, wa arjulihim et à pied. Lam yamsashum sou. Et rien ne leur est arrivé. Ils ont comme ça décidé, là, ils ont fait des doigts et ils ont marché sur l'eau, ils ont traversé ce fleuve qui fait je ne sais pas combien de mètres ou combien de kilomètres, ils l'ont traversé en marchant dessus. Il a dit en marchant dessus avec leurs animaux. Il a dit la même histoire s'est passée à quelqu'un qui s'appelle Al-Ala ibn al-Hadrami, très connu, un sahabi radiallahu ta'ala anhu. Il a dit quand il a conquis le Bahreïn, et ensuite il est arrivé à un endroit où il y a la mer, il peut plus faire, il peut plus rien faire, ni lui ni ses soldats. Il a dit, il a fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ensuite, ils sont tous passés, yani, en marchant sur l'eau. Il a dit, ils sont passés, ils ont traversé le fleuve ou cette mer en marchant sur elle. Il a dit, et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux, sont nombreux. Il a dit, si on va maintenant suivre, yani, ce qui s'est passé comme ça, le karamet, yani, les prodiges qui sont arrivés et les miracles. Non, que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux sahaba, etc. Il a dit, ça ne va pas en finir, ça ne va pas en finir. Al-Muhim, on va s'arrêter, inshallah ta'ala, ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on va se préparer, inshallah, pour les questions-réponses dans 1 minute, ou là 2 ou 3 minutes. Quand tu es prêt, Muslim, dis-moi. Et Muslim, tu es là, écrit chouf numéro 1. Alhamdulillah. Écoute, maintenant, on va faire comme la fois passée. Les fois passées, ce qu'on faisait une fois, on va lire 3 questions à la fois. Femme, surtout que maintenant, tu me donnes les questions, puisque tu me les envoies en PV. Donc, elles sont là devant moi. Je réponds 3 à la fois, même si c'est un peu vite, mais c'est mieux, car il y a beaucoup de gens qui disent, à chaque fois, ils disent, il n'a pas répondu à ma question. Femme qui fait 3 à la fois, Inch'Allah ta'ala. Et si tu veux, tu peux t'aider par une sœur, pour les sœurs. Pour les sœurs, tu peux t'aider par une sœur ou là par la sœur Umsana si elle est avec nous. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, salam alaykum. Tfadhal. Tayeb, avant de bismillahirrahmanirrahim, salam alaykum, ashraf al-mursalin. Je rappelle aux personnes, et surtout aux sœurs, qui pendant le cours, ou bien pendant les questions-réponses, qui ne voudraient pas être dérangés. Voudraient pas déranger par des intrus, par des voyous, par ceci, par cela. Bloquer leur PV. De bloquer leur PV. Comment qu'on fait pour bloquer le PV pendant le cours? Donc, j'explique très rapidement. Donc, on va sur le Paltalk. On va sur l'écran principal du Paltalk. L'écran principal du Paltalk. Attendez, je vais l'ouvrir donc chez moi. Donc, là où il y a la liste des amis, c'est écrit en haut, fichier, action, favori, aide. Ensuite, je clique sur fichier. Pour ceux qui ont l'anglais, c'est écrit file. Pour ceux qui ont l'anglais. D'ailleurs, fichier. Parce que moi, je dis en français. Ensuite, je clique sur configurer préférence. La première des choses, où c'est écrit, je crois, chez vous, setup. Setup préférence, je crois, chez vous. Clique sur. Ça va s'ouvrir. Donc il y a des choses qui vont s'ouvrir. Une seconde. Donc ensuite c'est écrit général 1. Ensuite 2 bannières. 3 transfert de fichiers. 4. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais compter. Une seconde. Où ça se trouve? Voilà. Donc je vais compter à partir du bas. C'est mieux. À partir du bas. Du dernier je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. C'est écrit confidentialité pour ceux qui ont le Paltalk en français. Je compte par en bas. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième. C'est écrit confidentialité. C'est confidentiel. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 3 trucs à causer. À cocher. À 3 trucs. Je choisis en 3 trucs. La première. Autoriser tous les utilisateurs à me contacter. Il ne faut pas cocher celle-là. La deuxième, invite ou inviter et transfert de fichiers des amis seulement. Je ne coche pas aussi celle-là. La troisième, autoriser uniquement les contacts de la liste d'admin. D'amis, hein, de la liste d'amis. Je clique sur celle-là, la troisième. Non. Je clique sur celle-là, la troisième. Si je clique sur la troisième, ça veut dire que pendant le cours, seuls mes amis qui sont dans ma liste peuvent me contacter. Aucune personne étrangère ne peut me contacter. Non. Donc, c'est la meilleure. Non, il faudrait cliquer sur cette chose-là pour que, quand je suis dans le cours, personne ne me dérange. Ensuite, bien sûr, après avoir cliqué sur celle-là, je clique aussi sur en bas, c'est écrit OK. C'est écrit d'accord ou là OK ou là quelque chose comme ça. Il faut cliquer dessus. Ensuite, ressortir. Comme ça, personne ne peut te déranger. Est-ce que je peux commencer d'autres, Inch'Allah ta'ala, musulman? Est-ce que tu m'entends? Je commence par la dot. Alhamdoulilah. Donc, regardez les calculs que j'ai fait et la conversion que j'ai faite aussi. Vous allez trouver que c'est très normal, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, dans les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit, et avant cela, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa dot pour ses épouses était de 500 dirhams. 500, je vais écrire 500 dirhams. Dirham. Une seconde, 500 dirhams. Voilà. Donc, le prophète Hassan donnait 500 dirhams comme dot. Voilà. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymeen dit dans ses livres, il dit, un dinar égale 12 dirhams. Un dinar égale 12 dirhams. Égal, okay, j'ai pas essayé, égal, j'ai pas trouvé à das, égal. Voilà, c'est plus ça. Égal 12 dirhams. 12 dirhams. Un dinar en or. C'est combien? C'est 12 dirhams. Donc maintenant, moi, j'ai voulu savoir 500 dirhams, c'est combien de dinars? Que dois-je faire? Je dois diviser 500 par 12. C'est ce que j'ai fait. J'ai divisé 500 dirhams par 12 pour savoir combien ça donne de dinars? J'ai trouvé que ça donnait à peu près 41. 41 dinars. À peu près. 42 ou 40 et quelques. Là, quand on va reconvertir, ça donne 41 dinars. Donc 500 dirhams, c'est 41 dinars. Maintenant, sachant que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit, un dinar, c'est 5 grammes d'or. Un dinar, c'est 5 grammes d'or. 5 grammes d'or. Si un dinar, c'est 5 grammes d'or, et moi j'ai 40 dinars, donc ça donne combien? Ça donne 40 par 5, ça donne 200 grammes. 200 grammes d'or à peu près. Et maintenant, donc ça a donné, j'écris, ça a donné 200 grammes d'or. 200 grammes d'or. Maintenant, si le gramme d'or coûte chez nous par exemple 5 000 dinars. Chez vous, je ne sais pas combien qui coûte d'euros. Donc on multiplie 200 grammes par le prix d'un gramme d'or et on a quoi? On a la dot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Donc j'ai trouvé à peu près, comme j'ai dit, 3 000 euros, je ne me rappelle plus. El Mohim, ou les 700 euros là. El Mohim. Maintenant, le musulman m'a demandé la question. Il m'a dit, comment après vous êtes revenu à dire que c'est seulement 30? Pourquoi? Pourquoi vous êtes revenu, vous avez dit, c'est seulement 30 euros à peu près. C'est-à-dire 140. J'ai dit, c'était 140 riels. Riels. 140 riels, c'est oudia. C'est pas moi qui ai dit cela. C'est Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. J'ai lu ça fait seulement 15 jours là dans un de ses livres, Boulour al-Maram, Sharh Boulour al-Maram. Quand il a expliqué le hadith du prophète sallam qui dit qu'il donnait 500 dirhams à ses épouses, il a dit, et 500 dirhams à notre époque, c'est l'équivalent de 140 riels. Donc moi, si Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah était vivant, j'aurais bien aimé lui poser la question, comment qu'il a fait pour transformer 500 dirhams en 140 riels. Tu as compris, musulman? Allahu alam. Peut-être c'est une erreur, Allahu alam. Justement, je ne sais pas. Comment a-t-il fait? Yani, pour dire que c'est seulement 140 riyals. Maintenant, moi, quand j'ai lu sa fatwa ou ce qu'il a lu dans le livre, je me suis dit, c'est impossible que yani, je connaisse mieux que lui. Lui, c'est un Saoudien, il a dit c'est 140 riyals. Donc j'ai quoi? J'ai dit, il faut plus écouter ce que j'ai dit, il faut écouter ce qu'a dit Cheikh Allah Ta'ala. Naam, 176, jusqu'à 200 grammes même. 200 grammes. Donc ça reste toujours, Inch'Allah Ta'ala, à vérifier. Et si yani, jamais vous pouvez nous donner des choses sur cette chose-là, des choses que vous avez entendues, yani, comment ils ont fait pour convertir, alors dites-le-moi, Inch'Allah Ta'ala. D'ailleurs, Inch'Allah, je te donne le micro.
Non, Allah, mais moi, de ce que j'ai trouvé, c'est ce que vous disiez avant qui était valable. Donc, c'est peut-être une erreur de retranscription sur le livre. Il y a une grosse différence entre 176 grammes d'or multiplié par, admettons, 30 euros le gramme d'or et uniquement 30 euros la dot. Allah, il y a une très grande différence. J'ai trouvé que ça pouvait monter entre 4 000 et 6 000 euros selon le prix de l'or. Donc les trois premières questions chères. Donc je vous les ai envoyées en PV. Et n'oubliez pas de me réécrire en PV pour que le PV reste toujours ouvert. Donc première question. Salam alaikum wa rahmatullah cher. Qu'Allah Ta'ala vous préserve. Naam cher. Parce que certainement mercredi, ils étaient contents, cher. Quand ils ont entendu 30 euros, khalas, là c'était la joie. Mais avec les petites recherches, Inch'Allah, il faudra qu'ils économisent et qu'ils mettent beaucoup d'argent de côté. Et les sœurs vont demander beaucoup d'argent, la dot. Donc première question, Salam alaikum wa rahmatullah, cher, qu'Allah Ta'ala vous préserve. Un frère est venu, donc c'est la question d'une sœur. Un frère est venu me demander en mariage. Il est connu pour avoir un bon comportement. Il dit écouter le Coran, la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, mais n'est pas d'accord avec les mises en garde. Il dit que les mises en garde divisent. Je ne sais pas quoi penser. Dois-je accepter ou refuser? Aidez-moi, cher Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, question d'une sœur de nouveau. L'époux ne peut pas être en polygamie avec ses belles-sœurs. Entre parenthèses, les sœurs de son épouse. Elles lui sont donc interdites. Question. Peut-il leur serrer la main ou avoir des relations comme avec ses sœurs. Désolé pour cette question, un frère me l'a posée et j'ai trouvé sa question bizarre. Barakallahu fikoum. Question suivante. Question également d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafakakum Allah, Cheikhana, une sœur m'a demandé ce matin comment faire pour avoir le goût. Comment faire pour avoir le goût à faire les adorations? Pour l'instant, elle ressent le fait de faire salat comme une corvée et elle aimerait aimer adorer Allah. Je lui ai conseillé la taouba, d'apprendre sa aqida et de lire des livres comme Madarij Salikin ou Les Saveurs de la Prière. Donc salat d'Ibn al-Qayyim. Ai-je bien fait? Et que lui conseilleriez-vous ainsi qu'à nous tous, Cheikhana, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Fadal Cher.
Alors, par la première question, on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par la première question. Dis-moi si tu m'entends musulman. Alhamdoulilah. Donc, une sœur dit, un frère est venu me demander au mariage. Il est connu pour avoir un bon comportement. Il dit écouter le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais n'est pas d'accord avec les mises en garde. Il dit que les mises en garde divisent. Je ne sais pas si je dois accepter ou refuser. Aidez-moi, Cheikh Barakallahu fikoum. Donc, apparemment, ce frère, yani, fait partie des salaf, d'après ce qu'elle dit, elle. Naam. Reste que quoi? Reste que quoi? Yani, pour lui, les mises en garde divisent. Pour lui, les mises en garde divisent. Maintenant, s'il croit que les mises en garde divisent, il se trompe. Mais si par contre, il veut dire par là que exagérer dans les mises en garde, yani, et ne parler du matin au soir que des mises en garde, etc., Il a dit ça divise, ou ça fait des maux dans la société, ou là, c'est vrai. Si du matin au soir, je n'apprends ni Aqida, ni Hadith, ni Coran, ni rien, je parle seulement des mises en garde, ça c'est pas, les salafs n'étaient pas comme ça. Mais s'il veut dire qu'en général, les mises en garde divisent, hein, il se trompe. Non, mais il se trompe, il faudrait juste y aller, lui montrer, y aller des preuves. Et ce que disent les gens, les savants, etc., que yani, si on ne met pas en garde contre yani, certaines personnes, nah. Donc c'est comme si on voit quelqu'un qui va tomber dans un puits et il est aveugle et on le laisse miskin tomber. Est-ce que tu pourrais, un kafir, pas un musulman, un kafir qui est aveugle, qui passe devant toi et qui va tomber dans un puits, est-ce que tu accepterais de le laisser tomber? Qu'en est-il s'il était musulman? Qu'en est-il maintenant? Tu vois quelqu'un dans l'égarement et qui va, si jamais il tombe dans Jahannam et il fait tomber les gens dans Jahannam, comme a dit le prophète Hassan, il a dit, Du'at ala abwabi Jahannam, des prêcheurs sur les portes, les seuils des portes de l'enfer. Il a dit, ils parlent de notre langue, ils sont comme nous, des Arabes. Il a dit, tu les laisses comme ça, subhanallah, yani faire ce qu'ils font. Et tu ne mets pas en garde contre eux, c'est vraiment grave. Donc je dis à la personne que, inshallah ta'ala, il faut juste yani, montrer à cette personne que yani, elle se trompe quand elle dit que ça divise. Car nous, notre but, ce n'est pas d'être unis, yani, comme les frères musulmans, ils veulent être unis, même si c'est dans la bida. Nous, notre but, c'est d'être unis dans la sunna, même si on est peu. Comme disait Abdullah ibn Mas'ud. Radiallahu ta'ala, il disait, Al-jama'a an takuna ma'a al-haq, wa in kunta wahdak. Il a dit, Al-jama'a, le groupe, c'est d'être sur le haq, même si tu es seul. Dans ta ville, tu es le seul sur le haq, c'est toi la jama'a, c'est toi le groupe sauvé. Même eux, s'ils sont unis, ils sont 200, 300, ils sont unis, mais ils sont dans la bid'a, ils sont dans le faux. C'est toi le groupe. Eux, ce ne sont pas le groupe. C'est toi le groupe. Donc il faut yani, faire, comment on dit, yani, expliquer à cette personne qu'Inch'Allah Ta'ala, yani, ça ne divise pas. Au contraire, ça nous montre donc la personne de laquelle il faut prendre garde pour que on soit pas, pour qu'on soit vacciné contre cette personne et que son poison et sa maladie, son virus ne puissent pas nous toucher. C'est pour ça qu'on met en garde contre cette personne. C'est tout. Et ça ne divise pas. Non. Donc, Inch'Allah ta'ala, si yani, cette personne accepte cette chose-là, Inch'Allah ta'ala, qu'il se marie, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, la deuxième question. Ma belle-sœur, salam alaykoum wa rahmatoullah, l'époux ne peut pas être en polygamie avec ses belles-sœurs, les sœurs de son épouse. Elles lui sont donc interdites. Peut-il leur serrer la main ou avoir des relations comme avec ses sœurs? Non. Le beau-frère, il lui est interdit de serrer les mains de ses belles-sœurs. Il lui est interdit de serrer les mains de ses belles-sœurs, même si ses belles-sœurs, non, il ne peut pas se marier avec elles. Mais l'interdiction de se marier est une interdiction temporaire. La preuve, si jamais sa femme décède, il peut se marier donc avec sa sœur. Ou bien si jamais il divorce sa femme, donc il peut se marier avec sa sœur. Donc sa sœur est quoi? Est une femme mariable, comme on dit, avec laquelle il peut, s'il veut, un de ces jours, se marier. Tandis que sa mère, la mère de sa femme, il ne peut jamais se marier avec elle. C'est pour ça qu'il peut lui serrer la main et l'embrasser aussi. C'est pour ça que si même il divorce sa fille, c'est-à-dire sa femme à lui, il divorce sa femme, non, sa belle-mère restera toujours interdite pour lui et toujours un mahram pour lui et pour elle. Il est un mahram pour elle. Il peut aller avec sa belle-mère au Hajj comme mahram alors qu'il a divorcé sa fille. Il a divorcé sa fille, ça fait 5 ans. Subhanallah. Mais la belle-sœur, non, parce que il peut se marier avec elle si jamais sa sœur décède, qui est sa femme. Pour la troisième question, inshallah ta'ala, une sœur m'a demandé ce matin comment faire pour avoir le goût des adorations. Pour l'instant, elle ressent le fait de faire salat comme une corvée. Elle aimerait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, naam, au début, c'est comme ça. Au début, c'est comme une corvée. Mais quand on se force, naam, voilà que ça va se transformer en saveur et en goût, masha'Allah. On se force pour faire les adorations et surtout, surtout, pour faire les surérogatoires. Si tu veux goûter à la saveur de la foi, il ne faut pas te suffire aux obligatoires. Les obligatoires, tu ne ressens pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une dette, une chose que tu dois faire, de gré ou de force. Non, tu ne fais pas, tu as des péchés, il y a l'enfer qui t'attend. Mais le surérogatoire nafila, personne ne t'a forcé. Si tu commences à les faire, Allah Ta'ala va t'aimer. Et s'il t'aime, il va t'ouvrir toutes les portes. Et bien sûr, va te donner la saveur dans ton cœur. Va t'élargir ta poitrine. Va te donner des milliers de choses qu'il ne donne pas aux autres. Donc, je conseille à cette personne de quoi? De s'efforcer à faire l'obligatoire et d'ajouter même la nafila. D'apprendre, lui a conseillé d'apprendre la aqida, naam, d'apprendre. Ce n'est pas en passant la journée à ne rien et à voir des films et à écouter de la musique que le soir on dit je ne ressens rien, j'ai pas de plaisir à faire des adorations. Mais par contre, et de passer ta journée toute dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas faire le haram au maximum. Naam, d'adorer Allah ta'ala au maximum. En écoutant des cours, en lisant, en étant avec des sœurs, naam, en étant avec des frères, si je suis un frère, en écoutant des choses, ne parlons que de l'islam, de la da'wa, et de ceci et de cela, et tu vas voir, yani, la ni'ma, que Allah Ta'ala va descendre dans ton cœur, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Donc les trois prochaines questions. Salam alaikum, cher. Je voudrais savoir si ma transaction est licite, Inch'Allah. Voilà, j'avais passé une commande sur Internet, mais le problème, c'est que je n'avais pas reçu mon colis, car j'avais oublié de compléter mon adresse. Plus tard, la vendeuse m'a contacté pour me dire qu'elle me réenvoyait mon colis à la fin d'août, fin du mois d'août, sans préciser la date du renvoi et le jour où je serai livré. Je voudrais savoir si ce genre de transaction est la vente qui s'appelle Bay Salam, qui est conditionné par le fait de connaître la date de la livraison. Est-ce que ma commande est bonne, même si je ne connaissais pas la date de livraison? Si ma question n'est pas claire, dites-le moi, Inch'Allah, wa barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafizakum Allah, Abu Abdillah. Concernant al-wudu, est-ce qu'on se lave trois fois les mains dans les ablutions ou avant de les faire? Est-ce que la preuve de se laver trois fois les mains, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous ne savions pas où étaient nos mains pendant que nous dormions. Est-ce que l'on peut faire ceci? Parenthèse, se laver, essuyer trois fois les mains dans le récipient. Qu'est-ce que El Mouwalla, puisque c'est une condition des wudu, mais ce terme est aussi présent dans Usul Salasa. Quand l'imam Ibn Abdel Wahhab dit « La yajouz lahum walla manhad Allah wa Rasulullah » Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Voici ma question. Est-il permis d'utiliser un dé pour les jeux éducatifs des enfants? Apprendre à compter, additionner, etc. Barakallahu fikum, cher. Assalamu alaikum. Tfadal, cher.
Inch'Allah ta'ala, que j'ai un peu de mal à comprendre, mais ma'alish, je vais la lire ensemble et toi aussi tu m'aides, Inch'Allah ta'ala, pour la comprendre. Donc, j'avais passé une commande sur internet, mais le problème, c'est que je n'avais pas reçu mon colis. Alors, j'avais oublié de compléter mon adresse, donc ils n'ont pas envoyé le colis. Plus tard, la vendeuse m'a contacté pour me dire qu'elle me renvoie mon colis à la fin d'août, sans préciser la date du renvoi et le jour où je serai livré. Je voudrais savoir si ce genre de transaction et la vente qui s'appelle Bay al-Salam qui est conditionné par le fait de connaître la date de la livraison. Est-ce que ma commande est bonne, même si je ne connaissais pas la date de livraison? Non, maintenant j'ai compris. J'ai compris, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Mu'im, en disant déjà que c'est août, elle a fixé, yani, un délai, comme a dit le hadith, ajalin ma'loum. Il a ajalin ma'loum. Pour que le salam soit valable, il faudrait connaître la date de livraison. La date, ce n'est pas, yani, exactement le jour. Ce n'est pas une obligation. L'essentiel, ici, je sais que pendant août, je vais recevoir, yani, ma marchandise, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, bi'a salam, c'est quoi? C'est donner l'argent d'avance et avoir la marchandise après. À deux conditions, que je connaisse bien c'est quoi la marchandise. On me l'a montré en photo, par exemple. On m'a montré comment qu'est cette marchandise. Et la deuxième, c'est que on me dise la date. La date, le mois par exemple, là, la semaine, quand est-ce que je vais avoir, Inch'Allah ta'ala, cette ma commande, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de problème. Reste pour le wudu, naam, il est de la sunna que quand on va faire les ablutions, on ne rentre pas les mains dans le récipient, mais on prend le récipient et on jette sur la main 3 fois. Ensuite, je fais rentrer ma main pour commencer par mettre l'eau dans ma bouche et mon nez. Mais avant cela, je ne rentre pas mes mains dans quoi? Dans le récipient. Surtout, si je viens de me réveiller du sommeil. Car le prophète a dit que la personne ne sait pas où étaient ses mains quand elles sont dormies. Et yani, il se peut que ses mains aient touché yani, des choses. Et Ibn Taymiyyah a dit aussi à cause du hadith qui dit que quand la personne dort, le shaitan dort sur son nez. Dort sur son nez. Hein, sa bouche et son nez, les deux. Ce qu'on dit en arabe, sa gueule, si je puis dire. Il dit, donc, le shaitan, quand il est là, donc, on ne sait pas aussi ce qu'il va faire de notre main. Puisqu'il dort avec nous, on ne sait pas ce qu'il va faire de nos mains qui sont visibles. Il peut uriner dessus, il peut faire des choses. La preuve, quand quelqu'un ne se réveille pas pour la salat subh, il a uriné dans son oreille. Donc, puisqu'il est là, il passe la nuit avec toi, pourquoi peut-être il ne va pas uriner sur tes mains ou alors les prendre et yani, faire toucher pour que tu touches des choses à toi ou à lui aussi. Donc, il faut pas rentrer les mains dans le récipient quand on fait le wudu jusqu'à les laver 3 fois. Et ces 3 fois-là, ça fait partie du wudu. Vous avez compris? C'est pas je les lave 3 fois, ensuite je commence le wudu. Non. Quand je prends le récipient de ma main droite, je verse par exemple de ma main gauche sur ma main droite, je dis bismillah et je verse. Ça, ensuite je pose le récipient et je lave mes 2 mains. C'est déjà le premier lavage des 3 lavages qu'il faut. Qu'est-ce que le mouwalat? Normalement, c'est le mouwalat, puis c'est une condition de wudu. Mais ce terme est aussi présent dans l'usul salafa lorsqu'il dit la yajuz lahu mouwalat man hada Allah wa rasoulah. Taïb, le mouwalat dans le wudu, c'est le fait de ne pas laisser de temps libre dans le wudu. Par exemple, je suis en train de faire le wudu. J'ai fait maintenant mon pied droit et maintenant j'arrête, par exemple, et je vais, par exemple, à la mosquée. Et je vais terminer, je dis, je vais terminer là-bas mon pied gauche. Vous avez compris? Je vais terminer. Ou alors je vais chez mon voisin et je termine mon wudu là-bas. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut le mouwalat. Il faut le mouwalat. Il faut que tout soit collé, le wudu. Il soit collé l'un à l'autre, du début jusqu'à la fin. Sauf quoi? Sauf excuse valable. Excuse valable, exemple. Je suis en train de faire le wudu par le robinet, pas dans un récipient. J'ai ouvert le robinet, j'ai commencé à faire le wudu. Quand j'arrive à mon pied droit, je l'ai terminé. Il n'y a plus d'eau dans le robinet. Il n'y a plus d'eau dans le robinet. C'est permis, par exemple, d'aller, par exemple, de la salle de bain vers la cuisine, de prendre là-bas, par exemple, une bouteille d'eau et de continuer mon pied gauche. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui est fait exprès. C'est pas moi qui ai fait exprès. Les savants disent à condition que la durée ne soit pas très longue. Par exemple, année quelques secondes pour arriver là-bas, une demi-minute maximum. Non, ils ont dit ça, c'est possible. Quant à l'usul salasa, quant à l'usul salasa, ils ne parlent pas de la mouadette et de l'ordre, ils parlent d'autre chose. Ils parlent que c'est interdit à un croyant, hein, yani, par exemple, d'aimer un kafir. Un kafir qui défie Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, c'est interdit de l'aimer, de le rapprocher de soi et de faire de lui un conseiller, de faire surtout dans le dîn. Surtout dans le dîn. Il a dit tout ça, c'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Et la dernière question, est-il permis d'utiliser un dé pour les jeux éducatifs des enfants? Vous savez, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui met ses mains dans un dé, il a dit, c'est comme s'il avait mis sa main dans du sang, le sang du porc, d'un khanzir, le sang du porc. Imagine, yani, en prenant un dé, c'est comme si on avait mis notre main dans le sang d'un porc. Mais reste une chose importante. Subhanallah, c'est quoi cette chose? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, yani, du sang du porc à cause du dé avec lequel on va jouer au jeu du hasard, au haram? Je vais prendre mon argent, tu vas prendre ton, je vais prendre ton argent, tu vas prendre mon argent, injustement. Ou bien même, par exemple, pour un jeu sans argent. Je joue avec quelqu'un, avec mon ami, avec les dés. Il y a même des jeux, je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça. Tu jettes le dé, ensuite tu comptes. Si par exemple, tu as un numéro 8, par exemple. 5 et 3, par exemple 8. Alors tu vas avancer ton truc. Tu vas l'avancer de 8 cases, par exemple. Et tu vas voir où tu es tombé, dans une maison, dans une banque. Donc, je sais pas, il y a un jeu comme ça. El Mouhim, est-ce que ça aussi, ça rentre dedans? Et est-ce que ça rentre aussi, ce que vient de poser ici la sœur, la question, yani pour éduquer les enfants, c'est juste pour l'éducation? Je dis, cette question, justement, je serais très ravi de connaître sa réponse. Je ne la connais pas. Je n'ai jusqu'à présent jamais trouvé la réponse à cette question. Est-ce que le dé, c'est en général haram ou là seulement si on joue pour de la loterie? Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous promets, Inch'Allah Ta'ala, que quand j'aurai cette réponse, je vous la dirai, bi'l-Nata Ta'ala. Donc, je dis à cette sœur, évite pour l'instant. Pour l'instant, évite. Le hadith a dit, il ne faut pas toucher au dé. Évite jusqu'à ce qu'on voit si ce hadith est mahsous. Yani, que c'est permis, si c'est halal. On va voir, Inch'Allah Ta'ala, bi'l-Nata Ta'ala, prochainement. Éviter, yani, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'on peut faire à la place du dé, Inch'Allah Ta'ala.
Donc, question suivante. Salam alaikum, cher. Je vous expose la situation d'une sœur. Elle s'est mariée avec un frère qui n'est pas du minhaj. Cela fait 5 mois. Celui-ci n'a pas les papiers, mais elle pense qu'il y a un profit par cette union, Wallahu alam. À chaque dispute, il part sans prévenir pendant une semaine. Dernièrement, il vient de partir. La sœur a 2 enfants qu'elle élève et la situation est instable. Et aussi pour les enfants, de voir un beau-père partir sans prévenir et faire des allers-retours. Quel conseil lui donnez-vous, sachant qu'il a dit qu'il voudrait divorcer? S'il revient et oublie cette idée, doit-elle rester avec un homme qui prend la fuite au moindre problème? Au bout de combien de temps d'absence est-elle considérée divorcée? D'ailleurs, pour faire le mariage civil, les démarches sont longues, subhanallah. J'ai l'impression qu'Allah leur met des obstacles. Elle est orpheline et convertie depuis quelques années et très éprouvée par cette solitude. Ne l'oublions pas dans nos invocations. Barakallahu fikoum. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi ya cher. Barakallahu fikoum et jazakumullah khayran de votre application pour la Ummah. Vos cours sont une ni'ma, walhamdulillah. Wa barakallahu fikoum les admins qui prennent de leur temps pour gérer le salon et le site. Allahumma, Allahumma barak lakum jami'an. Ma question est la suivante, Inch'Allah. Mon frère cherche à se marier. Il a plus de 31 ans et ne prie pas. Mon but n'est pas d'afficher son péché. En fait, ma mère me dit tout le temps, Tu connais beaucoup de sœurs et tu essayes toujours de marier les gens, mais ton frère, tu n'y penses jamais. Dans le sens, lorsqu'on me parle de frères et sœurs célibataires qui cherchent à se marier, j'essaye de faire un max d'esbab pour les mettre en contact par des intermédiaires. Cela va de soi, il n'y a aucun contact direct entre la femme et l'homme étranger pour que ça aboutisse à une khitba et à un mariage, Inch'Allah. Et Allah wa ar-Razzaq. Cela dit, concernant mon frère, ce n'est pas que je pense pas à lui, mais bon, tout mon entourage de sœurs prie, alhamdoulillah, et elles cherchent bien sûr un homme qui prie. Et c'est le minimum. Donc mon frère est loin de ce profil. Allahumma ahdi wahdina. Je le dis à ma mère, je dis à ma mère. Désolé, mais toutes mes amies cherchent un homme qui prie au moins. Elle m'en veut et me fait la tête quand je lui dis ça. Je me dis que même s'il ne prie pas, c'est naturel de vouloir se marier pour se préserver. En plus, mon frère n'est pas du genre à fréquenter. Allahumma barik lahu wahdahu As-sirat al-mustaqim. Que me conseillez-vous, Yachir? Je lui cherche une femme qui ne prie pas alors ou je ne fais rien. Barakallahu fikoum wa ahsanallahu ilaykoum. Question suivante, notre troisième question sur le mariage. Salam alaykoum. Question d'une sœur. Une sœur de 20 ans est à l'université. Elle porte le sitar. Plusieurs frères viennent la demander en mariage et son père refuse à chaque fois. Elle veut se marier et arrêter ses études car il y a de la mixité. La sœur veut partir de chez elle. A-t-elle droit? Peut-elle se marier? Elle veut partir aussi parce que son père la nourrit avec l'argent de riba. Tfada, cher.
Première question, je vais lire un peu. Mousseline, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Une soeur s'est mariée avec un frère qui n'est pas du Minhaj. Cela fait 5 mois, celui-ci n'a pas de papier, mais elle pense qu'il y est pour un profit pour cette union. Wallahu azza wa jal alam. À chaque dispute, il part sans prévenir pendant une semaine. Dernièrement, il vient de partir, la soeur a 2 enfants qu'elle élève et la situation est instable. Et aussi pour les enfants, de voir un beau-père partir sans prévenir et faire des allers-retours. Pourquoi elle dit, et aussi pour les enfants, de voir un beau-père? Pourquoi elle n'a pas dit pour les enfants de voir un père partir? Pourquoi elle a dit un beau-père musulman? Quel conseil lui donnez-vous, sachant qu'il a dit qu'il voudrait divorcer? S'il revient à oublier cette idée, doit-elle rester avec un homme qui prend la fuite au moins de problème? Au bout de combien de temps est-elle considérée? Au bout de combien de temps d'absence est-elle considérée comme yani, divorcée? Car ce sont les enfants de la soeur, pas du frère. Non. Donc je dis, quand on se marie, on se marie billah ta'ala, non, c'est pour que, quand on a un problème, on essaye de quoi? On essaie, yani, de le résoudre, bidna ta'ala, à deux, si c'est possible. Non. Mais ce n'est pas en fuyant et en abandonnant sa famille que, yani, le problème va se résoudre. Et ce n'est pas comme ça que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, moi, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, que quand un homme veut divorcer et commence à demander le divorce, non, que déjà, c'est une preuve que ça va pas aller loin. Ça veut dire qu'il n'a plus envie et que maintenant, même si je le retiens, tôt ou tard, il va demander encore une fois le divorce. Ça, c'est sûr. S'il commence une fois, ce sera toujours. Déjà, le fait qu'il pense au divorce et il dit je veux divorcer, c'est déjà que ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Non. Donc maintenant, je dis, si lorsqu'il revient, non, il veut divorcer, alors que la sœur, yani, le mette, yani, comme on dit, à l'aise. Elle lui dit, ça c'est une chose qui te revient à toi. Si tu veux divorcer, yani, si tu veux rester avec ta famille, reste avec moi, on fait une famille de musulmans, une famille qui suit, yani, des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si maintenant tu as quelque chose en tête ou là, moi je te retiens pas de force. Si tu veux divorcer, Le divorce est entre tes mains. Comme a dit le prophète sallam, innamat-talaqu liman biyadihi saq. Il a dit le talaq, le divorce, c'est pour celui qui détient ou là, qui tient le tibia. Celui qui tient le tibia de la femme, c'est son mari. C'est son mari. Elle dit, au bout de combien de temps d'absence suis-je considéré divorcé? La femme n'est jamais considérée divorcée, même si l'homme reste des années et ne vient pas, tant qu'ils sont en contact et qu'elle a accepté. Par contre, un homme, s'il décide et jure de ne plus toucher sa femme, ici, l'islam lui donne seulement 4 mois. 4 mois. Si après 4 mois, il ne touche pas sa femme, ici, elle va chez le juge, il la divorce. Il la divorce ou bien, il quoi? Il lui impose, yani, de la toucher. C'est-à-dire de revenir vers elle et de la toucher. S'il dit non, alors il lui impose le divorce. Il lui impose le divorce. Maximum, c'est 4 mois. Mais je dis, j'explique bien, car une fois j'ai entendu ça et c'était faux. J'ai lu une fois dans un forum une sœur qui a dit que si jamais le mari dépasse 4 mois, la femme est divorcée. Je dis ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai s'il dépasse 4 mois que la femme est divorcée. Il peut rester 2, 3 ans et la femme n'est pas divorcée. Mais ça, parce qu'elle a eu des ambiguïtés. Mais ça, c'est quand il jure. Il dit, je jure par Allah de ne plus toucher ma femme, par exemple, une certaine durée. On va voir, on lui donne combien en islam? 4 mois. S'il dépasse 4 mois, il sera obligé de la toucher ou de divorcer. Il n'y a pas en islam laisser comme ça une femme 4 mois, yani, toute seule comme ça, yani, sans la toucher. Il n'y a pas ça. Sauf si elle veut. Elle dit, ça ne fait rien, on vit ensemble, tu ne me touches pas, je ne te touche pas. Ça, c'est autre chose. Mais son droit, c'est que jamais il ne peut jurer plus de 4 mois. El-Mouhem. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Elle est orpheline et convertie depuis quelque temps et très éprouvée par cette solitude. Ne l'oublions pas dans nos invocations. Donc je dis à cette sœur, pour moi, ce couple n'est pas un couple yani, qui est un modèle. Un couple pareil, avec un mari pareil, ce n'est pas un couple modèle avec lequel on peut frapper un exemple et dire aux gens, regardez ce couple, masha'Allah. Ce couple n'est pas un couple modèle à cause du mauvais comportement de l'époux, de cet époux. Taïb, la deuxième question, inshallah ta'ala. Non, mon frère a plus de 31 ans, il ne prie pas, etc. Et mes parents, yani, me disent, il faut le marier, pourquoi tu maries les autres, tu ne maries pas celui-là. En fait, elle ne peut pas le marier. C'est difficile. Non. Elle c'est une sœur, donc elle connaît des sœurs. Et une sœur, c'est impossible qu'elle se marie avec quelqu'un qui prie pas. C'est impossible. C'est impossible. Même celui qui va faire l'acte de mariage, il peut pas. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahou et beaucoup de savants disent il est kafir. Beaucoup de savants disent il est kafir. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahoullah dit que si le mari arrête de prier, c'est permis à la femme de demander le divorce. Et il n'est plus en droit de la toucher. Il peut plus la toucher, il a arrêté la salat. Donc comment on va marier quelqu'un qui ne prie pas avec une sœur? C'est impossible. Mais ce qu'elle peut dire, la sœur a dit, elle peut dire à son frère que, yani, toi, commence seulement la salat. Commence la salat, c'est tout. Je t'ai pas dit de laisser pousser la barbe, ni de mettre un qamis, ni de faire la prière nafila. Commence seulement la salat. Les 5 prières, et moi, la première semaine que tu commences la prière, je te cherche une femme, inshallah ta'ala. Même si ce n'est pas une sœur, mais une femme simple qui fait aussi la prière. Au moins la prière avec la prière. Et tant que tu ne fais pas la prière, c'est difficile pour moi. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais il y a des choses dans la religion que tu ne peux pas co comprendre maintenant. C'est difficile à expliquer, etc., etc. Voilà. Et elle ne peut pas lui chercher une femme qui ne prie pas aussi. Elle ne peut pas lui chercher une femme qui ne prie pas, car lui, quand il ne prie pas, c'est un mal, ça? Elle, quand elle ne prie pas, c'est un mal. Tu ne peux pas, toi, unir entre 2 mots. Il y a un mal qui est là-bas, un mal qui est là-bas. Tu vas les unir ensemble. Tu ne peux pas. Non. Voilà, inch'Allah ta'ala pour la réponse. Taïeb, il reste aussi une chose. Une sœur de 20 ans est à l'université. Elle porte le sitar. Plusieurs frères viennent la demander en mariage. Son père refuse à chaque fois. Elle veut se marier et arrêter ses études car il y a la mixité. La sœur veut partir de chez elle. A-t-elle le droit? Peut-elle se marier? Elle veut partir aussi parce que son père la nourrit avec l'argent de l'usure, la riba. Réponse, inch'Allah ta'ala, je ne conseille pas à la fille de partir de chez elle. De partir de chez elle. Mais je demande à la fille de rester chez elle et de faire des efforts via, par l'intermédiaire, des connaissances, ou là de sa famille, ou là des voisins, ou là, qui vont faire la pression sur son père pour qu'il la marie. Naam. Qui vient lui parler, elle pleure, elle dit à sa mère, ceci, cela, jusqu'à Bidna Ta'ala, qu'il accepte de la marier. Si elle était dans un pays musulman, ce serait permis qu'elle aille chez le tribunal musulman déposer plainte contre son père, qui ne veut pas la marier. À condition que, vraiment, il ne veut pas la marier. Mais peut-être que pour lui, yani, il a des ambiguïtés, c'est-à-dire il dit que je ne la marie pas avec celui-là, ni avec celui-là, mais je lui cherche quelqu'un qui a telle et telle description. Il ne l'a pas encore trouvé. Comprenez? Peut-être que lui, il ne voit pas comme la fille voit. Lui, il voit que il lui faut quelqu'un de riche, ou bien je ne sais pas qui, quelqu'un du bled, quelqu'un ceci, cela. Donc celui-là, il veut la marier. Il n'a pas dit je ne la marie pas. Mais il veut la marier avec celui qu'il veut lui. Alors qu'en islam, il n'est pas obligé de la marier avec qui il veut lui, mais avec qui elle veut elle. Parce que c'est elle qui va vivre avec lui. C'est en ce sens que c'est permis en islam de déposer plainte contre son père dans cette chose-là, pour que le juge, ou bien le force à la marier, ou bien lui enlève la tutelle. Il lui dit donc, je t'enlève la tutelle et je donne la tutelle à ton frère, par exemple, ou à X ou à Y, ou bien c'est le juge lui-même qui la marie. Donc maintenant, il n'y a pas le juge, c'est sûr que vous êtes en France ou là. Il faudrait, inch'Allah ta'ala, patienter et faire yani, de sorte que la famille yani, se plaindre à la famille, à mes oncles, à mes tantes, à mes ceci, pour qu'ils fassent la pression sur mon père, bidnillahi ta'ala. Et aussi, elle veut partir parce que son père la nourrit de l'argent de la riba. Je lui dis, l'argent de la riba, c'est halal pour toi, inch'Allah ta'ala. L'argent de l'usure, la riba, c'est halal pour toi. Pourquoi? C'est haram pour seulement celui qui fait la riba. Celui qui a placé son argent dans la banque et prend les intérêts, c'est pour lui seulement que c'est haram. Si tu les donnes à toi, ta fille, ou à X, ou à Y, ou à moi, ce n'est pas haram. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, allait manger chez les juifs. Il les invitait, il allait manger chez les juifs, et il est mort empoisonné par le manger, le mouton d'une juive. Une juive, très connue, ça. Bint Khuzaïma. Donc, et pourtant, Allah Ta'ala, quand il a parlé des Juifs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, wa aklihimu riba, wa qad nuhu an. Il a dit, en parlant des Juifs, et ils mangent l'usure, alors que on leur a interdit l'usure. Malgré cela, le prophète sallam mangeait chez les Juifs. Donc, c'est une preuve que c'est interdit pour seulement celui qui fait l'usure, pas celui yani, qu'on invite ou auquel on donne cette chose. Mais Cheikh Ibn Othaymine dit, bien sûr, si on délaisse, c'est mieux. Si je délaisse l'argent des intérêts que quelqu'un me donne, c'est mieux pour moi. Mais si je prends, c'est pas haram. Surtout si j'ai des dettes, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal.
Donc, question suivante. Salam alaikum, cher Abu Abdullah. Je voulais savoir si l'épilation du torse pour l'homme était autorisée. Si oui, quelle est la preuve? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant Salat Taraweeh, pouvez-vous me dire si la femme a la récompense d'une nuit entière de prière si elle prie avec l'imam ou ce hadith concerne seulement les hommes? Est-ce mieux pour elle de prier chez elle? Qu'Allah vous récompense, Abu Abdillah, pour votre travail et vous accorde une belle part ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah vous accorde El Firdaous ainsi qu'aux admins et tous ceux qui écoutent ce dars. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous récompense pour la science que vous nous apportez et le temps que vous nous accordez. J'ai quitté mon pays pour venir étudier en France il y a presque 4 ans. Mais entre-temps, alhamdoulillah, j'ai changé. Maintenant, je porte le voile, alhamdoulillah, et j'essaie de me rapprocher d'Allah. J'avais donc abandonné mes études pour rentrer chez moi et me marier. Mais mes parents, surtout mon père, étaient en colère. Et mon père refuse de me marier si je ne continue pas mes études. Donc je suis reparti continuer mes études à l'étranger pour ne pas faire de la peine à mes parents et dans l'espoir que mon père accepte de me marier si je lui présente un frère. Mais parfois je me sens très mal car je sais que voyager sans mahram est interdit. Pourriez-vous me conseiller, d'autant plus que mon père veut que je termine mes études avant de me marier? Beaucoup de gens sont intervenus, mais ils n'écoutent personne. Barakallahu fikoum. Fadal cher.
Attends que je lise la question. Une seconde. Regardez la première question. Je voulais savoir si l'épilation du torse pour l'homme était autorisée. Si oui, quelle est la preuve? Barakallahu fikoum. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmoullah dit l'épilation. En parlant de l'homme et de la femme, bien sûr, ensuite on va revenir à l'homme, il a dit, se divise en deux ou trois sortes. Trois sortes. Il a dit, ce qui est interdit d'épiler, comme les sourcils, par exemple, la barbe pour l'homme, vous comprenez? La barbe pour l'homme, les sourcils pour l'homme et la femme. Il a dit ça. C'est interdit d'épiler. Ensuite, deuxième sorte, il a dit, ce qui est obligé d'épiler, comme ce qu'on a sous les aisselles et les parties intimes. Il a dit, c'est obligé d'épiler, maximum 40 jours. Ensuite, il a dit, et reste la troisième sorte, ce que il n'y a ni interdiction, non, ni il y a que c'est interdit, ni il n'y a que tu as des récompenses si tu es épile. Il a cité ici, il a dit comme par exemple, le torse de l'homme. Comme par exemple, le torse de l'homme. Il n'y a pas un hadith qui dit c'est bien d'épiler. Il n'y a pas un hadith qui dit c'est interdit d'épiler. Donc, ça, quand c'est comme ça reste dans quoi? Ça reste dans la base qui est la permission. Ça reste dans la base qui est la permission. Mais moi, je conseille. Je conseille à un homme de ne pas s'épiler sa poitrine, car, premièrement, les selfs ne l'ont pas fait, et deuxièmement, ça va donner des poils qui ne sont pas naturels. Non, les poils que l'homme, que certains hommes ont sur la poitrine, sont des poils naturels. Donner d'autres poils très gras, et yani, que personne ne voudrait, yani, disons, pas attirant du tout. Pas attirant du tout. C'est pour ça que je conseille à la personne de ne pas y toucher. Même dans le dos, ça. Il y a des personnes qui ont aussi ça dans le dos, des hommes, dans la nuque et surtout le dos. Donc, à cela, c'est pas conseillé de toucher ça, car ça va donner encore davantage. Ça va donner et ça va quoi? Yani, ça va dépasser. Tu vas être obligé de les raser. Au moins deux fois par semaine, tu vas être dépassé. Il vaut mieux les toucher naturel, les laisser naturellement. Pour la deuxième question, la femme, pour les taraouih, il faudrait savoir que la règle pour la femme, c'est que la salate dans sa maison vaut plus que quoi? La salate dans la mosquée, que ce soit taraouih. Ou pas. Pire encore, ou la mieux encore, quand la femme va à la Mecque. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui prie à la Mecque, une salat, c'est 100 000, ça. Et à Médine, 1 000. Le cheikh Al-Albani, ou cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, disent, non, il dit ça à condition que, yani, par exemple, l'homme vienne prier ici. L'obligatoire. Il a dit, mais si c'est nafila, il a dit, si c'est nafila, pour l'homme et la femme, s'il prie à la maison ou là à l'hôtel, c'est mieux que d'aller prier à la Mecque, devant la Mecque, ou là, dans, yani, la mosquée de Médine. Parce que le hadith a dit quoi? A dit que celui qui prie à la maison, nafila, c'est 27 fois plus que dans la mosquée. Donc, si tu pries nafila à la maison, à la Mecque ou là dans l'hôtel, c'est 27 fois plus que les 100 000 que tu aurais si tu pries à la Mecque. La même chose pour la femme. Quand elle prie à la maison, elle a plus de hajj que quand elle prie dans la mosquée, que ce soit dans la Mecque ou à Médine ou que ce soit à Tarawih ou dans n'importe quelle mosquée. Mais je dis que, n'empêche que si elle y va par exemple pour Tarawih, à cause de rencontrer des sœurs, à cause de, il y a quelqu'un qui récite bien, à cause de, il y a un cours, à cause de, yani c'est permis. Car le professeur Salassam a dit, n'interdisez pas aux femmes d'aller aux mosquées. La temna'u ima Allah, masajid Allah, ou la buyut Allah. Il a dit, n'interdisez pas à vos femmes d'aller à la mosquée. Si une femme veut aller à la mosquée, surtout si elle a une excuse, elle peut y aller. Car il y a un cours, il y a quelqu'un qui récite bien, il y a ceci, il y a cela. Enfin, sinon, si elle prie à la maison, c'est mieux pour elle, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Et pourquoi je dis que aussi c'est permis d'aller au Tarawih? Des fois, si elle reste à la maison, elle ne sait pas prier. Elle ne connaît pas beaucoup de Coran. Elle ne sait pas lire le Coran. Vous comprenez? Peut-être que c'est une reconvertie, elle ne connaît même pas l'arabe. Mais si elle va à la mosquée, elle profite de la récitation qu'elle entend, etc. Ensuite, autre chose, j'ai quitté mon pays, Gdamlé, pour revenir étudier en France il y a presque 4 ans, mais en tout temps j'ai changé maintenant, je porte le voile, etc. Non. Donc je résume, je dis, pourriez-vous me conseiller, d'autant plus que mon père veut que je termine mes études avant de me marier? Beaucoup de gens sont intervenus, mais ils n'écoutent personne. Non. Ça, j'ai répondu à cette question seulement là, la semaine passée. J'ai dit que des fois, surtout la fille, c'est beaucoup plus que le garçon. Elle se trouve entre l'enclume et le marteau. Naam, entre l'enclume et le marteau. Comment ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et comment d'un côté esquiver la pression du père. Des fois, certaines sœurs ont un père vraiment difficile. Un père qui, comme on dit chez nous, on dit, il a la marche arrière cassée. Il ne va que vers l'avant. Il revient jamais sur ses décisions. Il n'a pas de marche arrière. Il a cassé la marche arrière. Toujours vers l'avant. Subhanallah. Donc, il y a des pères qui menacent même. Pas les études, tu n'es plus ma fille. Je ne termine pas les études, je me désavoue de toi. Je ne termine pas des études, je te veux plus à la maison. Je ne termine pas mes études, sors de chez moi. Espèce de ceci, cela, cela. Je pense que celle-là, elle est dans quoi? Elle est dans ce qu'on appelle la daroura. Elle est dans la daroura. Elle n'a pas d'autre solution. Si ça revenait à elle, elle n'aurait pas fait ça. Elle n'aurait pas fait des études. Elle n'aurait pas. Mais elle a une grande pression sur sa tête. Elle demande jour et nuit, elle doit demander à Allah jour et nuit de guider son père pour que, yani, il revienne de ses décisions. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal.
Donc, la question suivante. Assalamu alaikum, cher. Hayakum Allah. J'aimerais savoir si le khula est considéré comme un divorce, si au bout de 3 fois, il n'est plus possible de se remarier, ou peut-on faire autant de khula que possible? Par exemple, peut-on se marier après 3 khula? Y a-t-il une divergence sur ce sujet? Si oui, pouvez-vous me dire quels savants ont dit, quels sont les avis des savants, car je n'ai trouvé aucune fatwa sur ce sujet. Jazakumullah khairan pour le temps que vous nous accordez, cher. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, cher. Une sœur mariée demande si elle peut refuser à son mari à partir. Si elle peut refuser à son mari de partir avec un frère en Algérie pour 4-5 jours, car elle est enceinte, elle a déjà une petite fille de 1 an, et la sœur est très fatiguée et rencontre des problèmes avec sa grossesse, comme elle a eu avec sa première grossesse, donc il faut qu'elle se repose et qu'elle ait de l'aide. Peut-elle refuser à son mari de ne pas partir et de l'aider? Barakallahu fekoum. Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'en est-il d'une personne qui sort sans l'autorisation de son mari? بارك الله فيكم. تفضل شيخ.
Non, pour le khula, ce n'est pas un divorce. Et il n'est pas compté comme divorce. Et il ne ressemble pas du tout au divorce. D'ailleurs, le khula, on peut divorcer une femme. On ne peut pas divorcer une femme quand elle est dans les menstrues. Mais on peut, elle peut faire le khula quand elle est dans les menstrues. Et la période viduité. Pour le divorce, c'est 3 menstrues. Et pour le khula, c'est seulement une menstrue, une seule fois. Donc ça ne ressemble pas au divorce, c'est pas un divorce. On peut faire 3, 4, 5, 6 khula et revenir et se remarier de nouveau avec yani, le même homme. Même si on fait 10, 20, 30 khula. Non, ce n'est pas comme le divorce qu'on ne doit pas faire plus de 3 fois. Inch'Allah ta'ala, c'est ça. Yani, la vue le plus. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une divergence sur celle-là. Non. Il y a une divergence. Est-ce que le khula rentre dans le talaq ou il ne rentre pas? Mais si on prend l'avis qu'il ne rentre pas et que c'est seulement une annulation, et c'est ça le vrai, donc on peut faire autant de khula, yani, et c'est toujours permis de se remarier avec le même homme. Taïb. Pour la deuxième question. Une sœur mariée demande si elle peut refuser à son mari, à son frère de partir en Algérie, etc. Taïb, je ne comprends pas très bien comment elle peut lui refuser. C'est-à-dire, elle peut l'empêcher ou lui refuser. Lui refuser, c'est-à-dire, elle dit, je veux pas que tu partes, etc. Il faut que tu m'aides, etc. Mais l'empêcher, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle peut empêcher quelqu'un quand il décide, il frappe la porte et il achète le billet et il part. Non, je ne pense pas qu'elle puisse l'empêcher. Mais elle peut y aller lui dire de ne pas partir, etc. Qu'est-ce qu'il a écrit là, une seconde? Qu'est-ce qu'il a écrit, Mouslim, je vois pas. Un musulman, vous avez posé des questions? Taïb, c'est pas pour moi. Donc je disais, elle peut y aller essayer de le convaincre. Voilà ce qui est mieux. D'essayer de lui convaincre, non, que si ce n'est pas un voyage, si ce n'est pas un voyage de besoin, que c'est pas la peine qu'il parte. Et que elle est dans un état où elle a besoin d'être secondée. Non. Et que si elle ne trouve pas son mari dans ces moments-là, non. Donc, quand est-ce qu'elle peut le trouver? S'il ne veut pas rester auprès d'elle pour l'aider dans ces moments difficiles, donc quand est-ce qu'elle peut le trouver? Donc, on va voir pourquoi il veut voyager. Si c'est un voyage seulement de plaisir ou de courtoisie ou de famille, etc., il vaudrait mieux qu'il reste sur la terre avec son épouse jusqu'à ce qu'elle l'accouche, par exemple. Ensuite, Inch'Allah ta'ala, il va voyager. Donc, elle essaye, Inch'Allah ta'ala, de le convaincre. Elle essaye de le convaincre. Et, yani, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala yahdih et qu'il va rester, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qu'en est-il d'une personne qui sort sans l'autorisation de son mari? Je pense que celui qui a posé la question veut dire qu'en est-il d'une épouse? Pas d'une personne. D'une épouse qui sort sans l'autorisation de son mari. Naam. Quand on sort sans l'autorisation du mari, on a un péché. On a un péché, naam. Sauf si on sait que le mari a l'habitude de me voir sortir et jamais il me dit pourquoi tu es sorti. Donc j'ai quoi? J'ai attendez, comment? J'ai comme une permission générale. Naam. Il sait que je sors. Et jamais il me dit pourquoi tu sors. Ça lui plaît, il me dit où est-ce que tu étais, tu as passé une bonne journée, etc. etc. Femme, dans ce cas, ce n'est pas interdit. Mais si je sais que quand je sors, il ne veut pas, il veut que je lui demande l'autorisation, ça devient haram si elle sort. Si elle sort, c'est haram. Elle doit lui demander est-ce que je peux aller chez X ou chez Y. Mais s'il lui a donné, comme j'ai dit, une autorisation générale, lui a dit à chaque fois que tu veux sortir, pas de problème, je te fais confiance, Inch'Allah Ta'ala, tu peux sortir sans me le dire. Dans ce cas, elle peut sortir, Inch'Allah Ta'ala, sans sa permission. À toi de les 3 dernières questions.
Non, Michel, donc les dernières questions, Inch'Allah. Donc pour la sœur Ami Muslima, donc certainement elle ne savait pas que c'était une seule question par personne. Donc exceptionnellement, je vais lire les deux, mais sachez que qu'à partir de mercredi, Ça sera une des deux questions qui sera lue, sans demander à la personne laquelle elle veut. Donc, première question. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense pour la science que vous nous apportez et le temps que vous nous accordez, cher. J'ai deux questions, inshallah. Dans un hadith, nous savons que la représentation d'êtres vivants est haram. Est-il aussi interdit de regarder des dessins animés? Deuxième question. Je voudrais me marier, inshallah. Mes parents sont musulmans, alhamdoulilah, mais je ne peux pas compter sur eux. Je ne peux ni me tourner vers les sœurs musulmanes, ni vers les mosquées par pudeur. Et de toute façon, la mosquée n'est pas faite pour cela. J'invoque déjà Allah et je continue, inshallah, mais que dois-je faire comme sabab? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum. Pendant le ramadan, en donnant de l'eau à mon enfant, j'ai accidentellement bu une gorgée. Dois-je rattraper ce jour? Barakallahu fikoum. Donc, dernière question. Salam alaikum, cher. Voilà, j'ai la tante à ma mère qui a 91 ans et qui est mécréante. Je m'occupe d'elle pour faire ses papiers, courses, etc. Maintenant, j'aimerais bien lui faire dawa, mais je ne sais pas comment lui faire et par où commencer. Quel conseil pourriez-vous me donner pour aborder le sujet avec elle et savoir de quoi lui parler en premier? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Tfada, cher.
Alhamdoulilah. Pour les dessins animés, il y a une divergence. Et je vous ai cité une fois quelques fatwas pour ceux qui disent que c'était permis pour les enfants, que pour ceux qui disent que c'était permis pour les enfants. Non. Tayeb, attendez une seconde à chercher. Pour la deuxième question, inchallah ta'ala, pour la deuxième question. Ça parle de mariage. Je voudrais marier, mes parents sont musulmans, etc. Mais je ne peux me tourner ni vers les sœurs, ni vers les mosquées par pudeur. J'invoque Allah Ta'ala, je continue le sabab. Mais que dois-je faire comme sabab? Donc, je conseille à cette personne de continuer à faire des doigts, mais en même temps de prendre des sabab. C'est quoi les sabab? Les sabab, c'est de parler aux sœurs. Tu es une sœur, tu parles aux sœurs. Ce n'est pas interdit. En islam, même l'homme, il propose un homme, pourtant les hommes, pour eux, c'est aïb. Comment il voit quelqu'un, il lui dit, je te propose ma fille. Zama, c'est aïb. Mais en islam, ça se fait. Ça se fait. Comme a dit une personne dans le Coran, elle a dit à Moussa, alayhi salam, inni uridu an unkihaka ilayhatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Il lui a dit, je te propose pour te marier à l'une de mes deux filles. Il a dit ça à Moussa alayhi salam. Je te propose de te marier à l'une de mes deux filles. Et comme a fait qui? Comme a fait aussi Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, qui a proposé sa fille Hafsa, Naam, à Abu Bakr. Et il lui a pas rendu la réponse. Ensuite, il a proposé à Uthman ibn Affan. Et il a dit, je me marie pas maintenant. Ensuite, Omar al-Khattab s'est énervé contre Abu Bakr, il lui a dit ni oui ni non. Ensuite, qui s'est marié avec la fille de Omar al-Khattab? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète a demandé la fille de Omar al-Khattab, Abu Bakr lui a dit, tu te souviens quand tu m'as proposé ta fille? Je t'ai dit ni oui ni non, je me suis tué. Tu t'es énervé contre moi, n'est-ce pas? Il a dit si. Il a dit, et alors sache que je savais que le prophète allait demander ta fille. Et je n'ai pas osé divulguer un secret. Je n'ose pas divulguer le secret, un des secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Omar al-Khattab a reconnu que donc, yani, c'était lui, c'est Abu Bakr qui avait raison. Al-Muhim. Donc, si en islam, c'est pas interdit de proposer ses filles, qu'en est-il? Donc, le contraire aussi est possible. Qu'une sœur, yani, dise à une sœur, yani, si c'est possible, cherche-moi quelqu'un, par exemple, de ta famille, ton frère, ton oncle, ton ceci, ton cousin. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta famille où tu connais, ou est-ce que tu dis à une soeur, est-ce que tu connais une autre soeur qui a un frère, par exemple, qui voudrait se marier? Et ce sera plus facile. Ce sera plus facile et c'est le sabab le plus vite qui Allah Ta'ala peut le faire, yani, comme fruit pour le mariage. Sinon, yani, sinon, si tu vas fermer toutes les routes, tu vas les barrer. Et yani, ne pas prendre de sabab, ça va être difficile. Mais, Inch'Allah Ta'ala, tu exposes ton cas aux sœurs que tu connais, aux sœurs auxquelles tu fais confiance, et aux sœurs qui sont vraiment proches de toi, même à une seule. Et celle-là, elle va, inshallah ta'ala, divulguer, propager, qui sont aussi yani, bien, qui ont un bon comportement, etc. Inshallah ta'ala, elle peut te marier avec son frère, son oncle, son cousin, son voisin, et comme ça, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib, qu'est-ce qu'il reste encore? Pendant le ramadan, en donnant de l'eau à mon enfant, j'ai accidentellement bu une gorgée. Dois-je rattraper? Barakallahu fikoum. On ne rattrape pas. Quand on fait le jeûne, et que et on mange et on boit. Il y a un hadith authentique qui dit quoi? Si jamais quelqu'un fait le jeûne et il boit, ou bien il mange en oubliant, qu'il continue à jeûner, c'est Allah Ta'ala qui lui a donné à boire ou à manger. Subhanallah. C'est Allah Ta'ala qui t'aide, il te fait oublier ou te fait tromper, tu te trompes et alors tu bois. Tu crois que on est pendant l'Aïd ou là je ne sais pas quoi, tu bois, ensuite tu te rappelles. C'est une ni'ma d'Allah Ta'ala qui a fait que tu oublies pour que tu boives. Regardez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, il n'y a pas de rattrape pas. Qu'est-ce qui reste encore dans cette question? Pendant le ramadan, d'Akhlas. Naam. Pour la tante qui a 93 ans et qui est mécréante. Je m'occupe d'elle, faire ses papiers, etc. Donc, en s'occupant d'elle, c'est une bonne occasion en or. C'est une occasion en or pour lui faire la da'wah. Comment lui faire la da'wah? Naam. Avec sagesse et avec hikma. Avec ça. Premièrement, en profitant des moments où elle est de bonne humeur. Car c'est pas quand quelqu'un, par exemple, est de mauvaise humeur ou bien il, je sais pas, il vient de tomber, il a mal à son pied ou là, tu lui dis va commencer la prière ou là va mettre le djilbab. Là, elle va pas s'arrêter de t'insulter. El Mouhim. Tu attends les moments où tu sens qu'elle est de bonne humeur. Donc tu parles avec elle, yani, sur des choses dans lesquelles elle aime parler. Elle aime parler, je ne sais pas quel sujet elle aime parler, pourvu que ce ne soit pas haram. Ensuite, doucement, doucement, yani, pour arriver à lui dire, dis-moi, ma grand-mère, yani, je t'ai jamais posé cette question, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses qu'il y a demain quand on va mourir? Puisque demain on va tous mourir, ma grand-mère, tous, moi, toi, tous. C'est une chose de personne que personne ne peut esquiver. Même les prophètes, tous et les messagers, tous sont morts et sont morts. Naam. D'après toi, ma grand-mère, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je t'ai jamais posé la question, juste pour qu'on discute un peu. Et déjà, tu ouvres, inshallah ta'ala, yani, tu fais un pont entre toi et elle. Elle va te dire bien sûr que je crois qu'il n'y a rien, ou on va devenir poussière, ou bien il y a un enfer, ou bien il y a Jésus qui nous attend, ou là je ne sais pas quelle est sa croyance. Non. Et toi tu vas lui dire que chez nous, si elle sait que tu es musulmane, je pense qu'elle le sait, Allahu alam. Non. Donc si elle sait que tu es musulmane, tu lui dis chez nous en islam, justement, c'est ça ressemble pas de ça. C'est par exemple que il y a une résurrection, ensuite il y a ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. Ensuite, le paradis c'est pour ceux qui, subhanahu wa ta'ala, et yani, aux messagers qui étaient à leur époque. En temps, lorsque Isa, Jésus est venu, ceux qui ont cru en Jésus quand il était vivant, iront au paradis. Ceux qui ont cru au paradis. Et le dernier, c'est Mohammed, celui qui croit en lui. Petit à petit, petit à petit. Elle ouvre seulement, elle fait une relation. Elle ouvre le chemin, si je puis dire. Ensuite, tout doucement, elle lui parle de la aqida surtout. La aqida. Que dit l'islam, que pour une personne, yani, si elle croit en Allah et au jour dernier, ses anges, elle ira au paradis, elle lui explique un peu la aqida et elle voit. Si la grand-mère accepte, etc., alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma, il ne faut pas lui parler beaucoup. Il ne faut pas lui parler beaucoup pour qu'elle dégoûte. Sauf si elle dit, c'est elle qui veut vraiment. Et elle te dit à chaque fois, parle-moi, parle-moi, ça me plaît. Naam, explique-moi encore. Si elle fait comme ça, ma'lish, passe le cas, je reste des nuits avec elle. Mais si je la gêne, etc., je ne parle que de quelques phrases. Une seule phrase peut des fois donner un résultat, yani, mashallah. Et il faut pas dire pourquoi moi je lui parle ou là je lui ai parlé, elle n'est pas rentrée dans l'islam. Non. Ça, c'est une chose qui t'appartient pas. Le fruit appartient à Allah Ta'ala. Même lui, il a dit dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, wa imma natawfiyannak wa imma nuriyannaka ma na'iduhum aw natawfiyannak. Il a dit, Allah Ta'ala a dit au prophète, ya Muhammad, ou bien montre ce que je t'ai promis et comment je vais châtier ces kuffars, etc. Ou bien je te fais mourir. C'est-à-dire que ce n'est pas obligé que tu vois le fruit. Ou bien tu vois le fruit, ou bien tu meurs. Il a dit ça au prophète, nous aussi la même chose. Toi, tu fais la da'wa, c'est tout. Le fruit, c'est pas obligé que tu le vois. Et comme il est possible que tu le vois sur le champ. Il est possible que sur le champ, elles disent La ilallah, Muhammad Rasoullah. Ou bien juste une semaine. Et c'est possible 1 an, 2 ans. Et c'est possible que, yani, tu ne vois toi rien. Tu meurs avant de savoir ce qu'elle est devenue. Al-Muhim. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider dans cette da'wa et que Allah ta'ala fasse de toi un sabab pour que cette grand-mère soit guidée et devienne une musulmane de celles qui ont sauvé leur et qui a né Allah subhanahu wa ta'ala ravi d'elle et on demande cette chose aussi pour nous pour que Allah subhanahu Fawzi du 30 avec ce que tu veux ce que tu m'écris en whisper. Inch'Allah ta'ala, il n'y a plus de problème, inch'Allah ta'ala. Donc, je te mettrai yani, au courant après de ce qui s'est passé, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, Mousseline, est-ce que tu m'entends pour que je termine? Mousseline, est-ce que tu m'entends? Non. Bayeb, dis-moi seulement oui ou non. As-tu un dernier mot à dire ou bien tu as un dernier mot? Je quitte. Non. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka. On se rencontre, inch'Allah ta'ala. يوم السلام عليكم فيكم بارك الله